وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 15 Dhul Hijjah 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 31 octobre 2012, avec le cinquième cours du livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Le titre, c'est le premier titre, la patience dans la recherche de la science. Donc la patience dans la recherche de la science. Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'ai-je à voir les savants d'entre vous s'en aller et les ignorants ne pas apprendre? Apprenez, car le savant et l'étudiant sont associés dans la récompense. Qu'ai-je à voir les savants d'entre vous s'en aller et les ignorants ne pas apprendre? Apprenez, car le savant et l'étudiant sont associés dans la récompense. Le savant car il enseigne et l'étudiant car il apprend. Donc les deux, inshallah ta'ala, sont associés dans la récompense. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala nous rapporte: lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam décéda, je dis à un homme des Ansar, des Médinois, je lui dis: allons interroger les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils sont nombreux. Il me répondit: tu m'étonnes, ô Ibn Abbas, tu m'étonnes. Penses-tu que les gens auront besoin de toi alors qu'on compte parmi eux autant de compagnons du prophète? Naam, est-ce que tu comptes que yani les gens vont avoir besoin de toi si tu vas demander la science? Naam, alors qu'il y a la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont encore vivants. Il a dit, il délaisse à cela. Donc, il n'alla pas apprendre. Il a dit, mais moi, je me suis attelé. Il a dit, on me rapportait parfois le hadith d'un homme et j'allais le trouver alors qu'il faisait une sieste. Je m'allongeais sur mon vêtement devant sa porte et le vent me couvrait de poussière. Tête ensuite me voyait et disait: ô neveu du messager d'Allah, pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un me trouver afin que je vienne à toi, afin que ce soit moi qui vienne à toi? Je répondais: je suis plus en devoir de venir te trouver et de t'interroger, car c'est moi quoi qui cherche la science. La science, on va vers elle et ce n'est pas elle qui vient vers nous. Il a dit, Abdullah ibn Abbas a dit, alors l'homme auquel j'avais fait la proposition, hein, au début, il avait fait la proposition à quelqu'un, il lui a dit, viens, on va prendre la science. Il a dit, cet homme-là resta ainsi. C'est-à-dire, il stagna, il n'a pas appris. Il a dit, jusqu'à ce que il a vu les gens se presser autour de moi. Et il a dit, ce jeune, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, l'autre a dit, ce jeune est plus sensé que moi. Ce jeune Abdullah ibn Abbas est plus sensé que moi. Il a demandé la science. Hein, je lui ai dit que à quoi ça sert? Il y a les compagnons du prophète. À quoi ça sert donc tu demandes? Il a dit, il a stagné. Il est resté ignorant. Moi j'ai demandé la science au point où les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se pressaient autour de moi pour me poser des questions. Donc cet homme a reconnu. Il a dit, ce jeune, Abdullah ibn Abbas, est vraiment plus sensé que moi. Naam. Ikrima, rahimahullah, rapporte Ikrima, c'est l'un des valets de Abdullah ibn Abbas. Il rapporte, il a dit, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, mettez des liens à ses pieds pour apprendre le Coran et la Sunna. Abdullah ibn Abbas mettait des liens, il liait ses pieds, hein, pour apprendre le Coran et la Sunna. Malik ibn Abi Amir, rahimahullah, rapporte, il a dit, un homme vint trouver Talha, radiallahu ta'ala anhu, et lui dit, vois-tu ce Yéménite, c'est-à-dire Abu Huraira. Il lui a dit, tu vois ce Yéménite là-bas, Abu Huraira, qui est plus savant que vous, qui est plus savant que vous. Il a dit, nous entendons de lui des choses que nous n'entendons pas de vous. C'est-à-dire, c'est un peu, yani, comment se fait-il? Comment se fait-il qu'il soit plus savant que vous, qu'il raconte des choses qu'on n'entend pas chez vous? Il répondit, concernant le fait qu'il ait entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait entendu du messager, alayhi wa sallam, des choses que nous n'avons pas entendues, cela ne fait aucun doute. Et je vais te dire pourquoi. Tu vas connaître le secret, inshallah ta'ala. Nous avions des familles et nous ne nous rendions auprès du messager, alayhi wa sallam, qu'au matin et au soir. Alors que lui, il était pauvre, dénué de biens, et il se tenait constamment à la porte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit, ce que tu dis est vrai, naam. Abu Huraira est plus savant que nous, surtout dans les hadiths. Naam, pourquoi? Il ne lâchait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un iota, toujours collé à lui. Il n'avait pas de famille, il n'était même pas marié quand il était jeune. Il a dit donc, pourtant il n'a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que après l'an de Khaybar, la septième année. Donc vraiment, il n'a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelques années, c'est tout. Mais il ne l'a jamais quitté, toujours collé à lui. Au point où il était pauvre, il n'avait même pas le temps ni l'argent pour aller manger. Il reste comme ça, et c'est lui-même qui raconte. Abu Huraira raconte dans un hadith de Bukhari, il dit, je prenais un caillou, ou là, disons un petit rocher, si je puis dire, un rocher de caillou, il dit, je le mettais sur mon ventre et je l'attachais avec, yani, comme ça, une corde, il a dit comme ça, pour que ça chasse un peu la faim, juste pour que je reste avec le prophète et que j'entende tout ce qu'il dit et que je vois tout ce qu'il fait, Il a dit au point où des fois, je tombais évanoui. Évanoui de quoi ? De faim. Tellement j'ai faim, des jours que je ne mange pas, des fois je tombe évanoui. Mais, al-muhim, je ne m'éloigne pas de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, Abu Huraira, les rawafid, les chiites, etc., ils disent de lui qu'il est kafir, etc., subhanallah, et qu'il ne connaît pas de hadith, et que c'est un ignorant, je ne sais pas quoi. Subhanallah, ni'mal wakil. Shu'ba, rahimahullah, a dit, regardez ici une chose, remarquez ici. Remarquez les sahaba, comment qu'ils étaient sincères. Et qu'ils n'étaient pas quoi? Qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas la jalousie, le hasad. Le hasad, naam. Quand quelqu'un vint à Talha, il lui dit, comment se fait-il que ce Yéménite est plus savant que vous? Il dit des choses, c'est-à-dire Abu Huraira, il dit des choses qu'on n'entend pas de vous. Que lui a dit Abu Talha? Il lui a confirmé que c'était vrai. Il lui a montré la raison pour laquelle, la raison, la vraie raison, le secret. Il ne lui a pas dit non, c'est pas vrai, c'est pas un savant. Non, c'est comme ça qu'ils disent, ils connaissent juste quelques hadiths, ce sont toujours les mêmes qu'ils répètent. Non, mais non, il lui a dit c'est vrai, il est plus savant que nous. Et voici la cause. Subhanallah al-Azim. Shu'ba, rahimahullah, a dit, si tu vois un encrier chez quelqu'un, autrefois il n'y avait pas dans les maisons les encriers. S'il y a un encrier dans la maison de quelqu'un, c'est que c'est un talibouin ou bien un savant. Il a besoin d'encre pour écrire. Il a dit, si tu vois un encrier chez quelqu'un, sois miséricordieux envers lui. Et si tu disposes de quelque chose, nourris-en-le. Naam. Donc si tu vois quelqu'un avec un encrier dans sa maison, il faut avoir de la rahma envers lui Et si tu disposes de quelque chose, nourris-en-le, donne-lui, nam, car il a besoin. Et la science, yani là, lui a pris tout son temps, lui a pris tout son temps. Sofiane Thawri, rahimahullah, a dit, le grand savant des Tabi'in, Sofiane Thawri a dit, l'homme doit contraindre son enfant à la recherche de la science, car il en est responsable. L'homme doit contraindre son enfant à la recherche de la science, car il en est quoi? Il en est responsable. Nam. Il faut dire que de nos temps, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, yani, qu'un enfant, ou qu'un de nos enfants, soit, yani, comme ça, il aime la science, et soit un talibouin, c'est très difficile. Même dans un pays musulman, vous allez dire, non, dans un pays de Kof, c'est difficile. Même dans un pays musulman. Parce que partout, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce qu'ils disent chez vous, ils disent chez nous. Comment ils s'habillent chez vous, ils s'habillent chez nous. Comment ils conçoivent la vie chez vous, ils la conçoivent chez nous. Et c'est la même chose. C'est partout la même chose. Ils vont à l'école, ils apprennent la même chose. À la télé, ils voient la même chose. Et comme ça. Maintenant, il y a le Facebook. Maintenant, tu lui dis, viens, on va prendre le Coran. Là, il est occupé, là, le Facebook. C'est là-bas qu'il cherche la science pour lui. Vous avez compris? Donc, yani, si maintenant, yani, quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, et lui donne un enfant qui cherche la science, qui recherche la science, il faut vraiment quoi? Yani, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Jour et nuit. Il y a même yani, des savants, qui, leurs enfants, qaddara Allah ma sha fa'al, n'ont pas été des talibouin. Surtout les savants. Vous savez pourquoi? Car le savant n'a pas le temps. Le savant, il est toujours occupé à faire des cours, ou bien à écrire, ou bien à lire. À lire pour qu'il apprenne encore plus. Ou bien à écrire dans un livre, ou bien à enseigner aux autres. Donc, pour qu'il parle avec son fils, etc., c'est le dernier auquel il va lui apprendre. Je disais, Abu Hamza, rahimahullah, a dit, je me suis rendu chez Ibrahim al-Sayyir pendant plus de 20 ans. Et personne chez moi ne savait où j'allais et d'où je revenais. Non, quand quelqu'un demande la science, c'est pas obligé non, qu'il écrive ça dans les journaux, que je suis en train de demander la science. La science, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas obligé que tout le monde sache où je suis, qu'est-ce que je fais, chez qui j'étudie, etc. Si je dis aux gens, c'est peut-être pour les encourager. S'il y a quelqu'un qui dit, par exemple, ici dans cette ville, on meurt, il n'y a pas de science. Je lui dis, tu te trompes. Il y a X ou Y qui donnent des cours dans telle mosquée. Non, viens apprendre avec nous, moi ça fait dos, ça pour l'encourager. Mais pour parler comme ça, et sans raison, et dire que je demande la science, etc., il ne faut pas faire ça. Non, il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne demander la science que pour Allah subhanahu azza wa jal. On demanda à Ibn al-Mubarak, qui ne connaît pas Ibn al-Mubarak, le grand tabi'i, rahimahullah, jusqu'à quand écriras-tu la science? Jusqu'à quand tu vas écrire la science? Il répondit, il se peut que je n'ai pas encore écrit la parole qui me sera profitable. Il a dit, je n'arrêterai jamais d'écrire la science, c'est-à-dire d'étudier et d'écrire. Pourquoi? Il se peut que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore écrit la phrase ou la parole qui me sera profitable demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id rahimahullah rapporte de son père que son père avait dit, il a dit, je sortais de la science et n'y revenais qu'après la nuit tombée. Je sortais de chez moi pour la recherche de la science et n'y revenais que la nuit tombée. Vous savez, quand quelqu'un sort pour la demande de la science, si jamais il meurt dans la rue, en allant, bien en revenant, bien dans le bus, ou bien, il meurt, yani, avec les portes du paradis ouvertes. Les portes du paradis ouvertes, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, rahimahullah, a dit, j'ai composé cet ouvrage-là, qui s'appelle Al-Gharib, pendant 40 ans. Je suis resté 40 ans pour le composer. Ça me rappelle Imam Malik rahimahullah, qui dans toute sa vie, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit le Mawta, un livre qui s'appelle Mawta, un seul tome. Combien il est resté d'années pour l'écrire? 40 ans. 40 ans pour écrire un livre. Qui, des grands savants, reste 40 ans pour écrire un livre? Maintenant, tu trouves un jeune, il va dire, je vais écrire un livre dans le din. Un livre, en 15 jours, je vais t'écrire un livre. La hawla wa la quwwata illa billah. 40 ans, Imam Malik pour écrire son livre. Un mouhim. 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tellement la personne a peur qu'elle se trompe dans la science, dans ce qu'elle va écrire, tellement la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque jour elle dit laisse demain, attends je vérifie, attends ceci, attends cela. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, en une semaine il peut écrire un livre. Allez, copier-coller, internet, Google, copier-coller, et j'ai un livre devant moi et je le vends. Si mon intention c'est de faire entrer de l'argent, une semaine il peut écrire un livre. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-muhim, qu'a dit Abu Ubayd Qasim? Il a dit, j'ai composé cet ouvrage qui s'appelle Gharib pendant 40 ans. Il a dit, parfois j'apprenais un enseignement de certains et l'inscrivais dans l'ouvrage sans pouvoir ensuite dormir la nuit, tant cela me rendait joyeux. Et ensuite, il a dit, aujourd'hui, l'un de vous vient me trouver, reste à mes côtés, c'est-à-dire à apprendre, 4 ou 5 mois, puis il me dit, je suis resté longtemps. Subhanallah al-Azim. Il dit, moi je suis resté 40 ans pour écrire un livre, 40 ans à demander la science, c'est vous. Il y a une personne, elle vient apprendre, elle reste auprès de moi 4 ou 5 mois, ensuite elle dit, c'est beaucoup, je suis resté longtemps. 4 ou 5 mois, et il a dit, yani c'est beaucoup pour certains. Alors que tout le monde sait que quelqu'un qui demande la science, il lui faut quoi? Des années et des années. Je dirais même mieux, il n'y a pas de fin, jusqu'à ce qu'il rentre dans la tombe. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la tombe, la dernière minute avant l'agonie, il va apprendre quelque chose de nouveau. C'est spécifique à quoi? À la science islamique. La science, yani, qui vient du Coran et de la Sunna. Ça se termine jamais. Ça n'a pas de fin. Si vous voulez, on va parler du wudu seulement, les ablutions. On va parler d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 5 ou 10 ans, on ne va pas s'arrêter. Parler des ablutions. Ensuite, vont venir d'autres gens, ils vont parler des ablutions. D'autres savants vont parler sur les ablutions, ça ne va pas finir. Quelles sont les divergences qu'il y a? Quels sont les hadiths qu'il y a? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Seulement les ablutions. Qu'en est-il? Yani, tout le din. المهم أحمد بن سعيد الرباطي رحمه الله رابورت il a dit, j'ai entendu Ahmed ibn Hanbal, le grand imam, dire, nous avons appris cette science avec humilité et nous ne la donnons qu'avec humilité. Naam, cette science nous l'avons apprise avec humilité et on ne la donne qu'avec humilité. C'est pour ça qu'il disait que la science, on va vers elle, c'est pas elle qui va vers toi. Ce n'est pas le savant qui va venir frapper chez la porte des enfants des Richards ou bien du gouverneur, je ne sais pas, il lui dit, je suis venu t'apprendre. Mais c'est lui, hein, qui doit envoyer ses enfants pour qu'ils viennent chez le savant, pour qu'ils apprennent. Il vient se mettre à genoux, par terre, à genoux, hein, pour qu'il apprenne bi'idhnillahi ta'ala. Abul Azhar rahimahullah a dit, je me suis rendu chez Abdel Razzaq. Sitôt que je suis arrivé avant qu'il ne sorte pour accomplir la prière de l'aube. Abdelzer, je crois, celui qui a écrit le Moussannaf, Abdelzer, il a dit, je suis arrivé chez lui, mais c'était tôt. Avant quoi? L'accomplissement de la prière de l'aube. Lorsqu'il sortit, il me vit et me dit, tu étais là hier? Je lui répondis, non, mais je suis sorti de nuit. Alors cela lui plut, et lorsqu'il conclut la prière de l'aube, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'appela et m'enseigna ce hadith à moi seul, en dehors de mes compagnons. Naam. Quand il a vu que celui-là était venu tôt, naam, avant l'aube, il est venu yani, devant sa porte l'attendre, il a dit, il m'a appris spécialement un hadith, yani, il n'a pas, yani en dehors de tous les autres, alors que tous les autres étaient absents. Alors tous les autres étaient absents. Autrefois, yani quand quelqu'un, un savant, yani te donne un hadith de lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu l'entends directement de lui, c'est vraiment comme s'il t'avait donné yani la meilleure des choses qu'on puisse donner yani de nos jours. Et c'est mieux qu'une maison, qu'une voiture, qu'une. Et certains sahaba faisaient un voyage d'un mois et plus, juste pour entendre un hadith. Il va un mois d'un pays vers un autre, d'une ville vers un autre, juste pour écouter un seul hadith et revenir, comme on le verra plus tard, inshallah ta'ala. Al-Bukhari, rahimahullah. Vous connaissez Al-Bukhari, rahimahullah. Qui ne le connaît pas, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis allé trouver Adam ibn Abi Iyas. Je suis allé trouver Adam ibn Abi Iyas. Et je suis resté jusqu'à épuiser ma nourriture. Je suis resté chez lui, le devant sa porte, là. Jusqu'à épuiser ma nourriture et manger de l'herbe. J'ai même mangé de l'herbe pour ne pas mourir. Sans rien dire à personne. Sans rien en dire à personne. Au troisième jour de cette situation, une personne que je ne connais pas vint me trouver et me donna une bourse de dinars en me disant, dépense-les pour toi. Non, ils étaient tellement pauvres que quand ils allaient demander de la science, ils restaient des jours et des jours peut-être sans manger. Et peut-être même, ils mangeaient de l'herbe pour ne pas mourir. Non. Et il y avait toujours, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitait et leur envoyait des gens qui yani, les aidaient. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné un peu d'argent, il lui a dit, dépense-le pour toi. Dépense-le pour toi. Donc, ici on prend que il n'y a pas aussi mieux pour celui qui a de l'argent. De quoi? De donner à un talibouin, de donner à quelqu'un pour qu'il demande yani, la science, bi'idnaï ta'ala. Soit pour qu'il apprenne le Coran, soit pour qu'il apprenne la sunna, soit pour qu'il apprenne le fiqh. Et on lui donne de l'argent, là, comme salam barakatou, pour qu'il apprenne, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça s'est passé même avec les selfs en leur temps. Beaucoup de gens ont donné à des savants pour qu'ils restent quoi à la maison pour étudier et enseigner après. Étudier, enseigner après, car des fois ils ne pouvaient pas joindre entre les deux. Entre les deux, c'est-à-dire aller travailler et demander la science. Taïb. On va passer maintenant, inshallah ta'ala, à autre chose qui s'appelle la mise en pratique. La mise en pratique de la science. La mise en pratique de la science. Taïb. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Confirmez-moi que vous m'entendez. Alhamdoulilah. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, ce que je crains le plus, c'est quoi? Ce que je crains le plus est qu'arriver au compte des œuvres, yani yom qiyamah, quand Allah ta'ala va nous faire le jugement, on me dise, j'ai peur qu'on me dise, tu as su, mais qu'as-tu pratiqué de ce que tu as su? Voilà ce que je crains le plus. C'est que demain, quand je meurs, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on me dise, tu as su, certes tu as su, mais qu'as-tu pratiqué de ce que tu as su? C'est ça le plus essentiel, et c'est ça dont j'ai peur. C'est ça dont j'ai peur. Et lui-même, radiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda a dit, tu ne seras pieux que lorsque tu seras savant. Et la science ne t'embellira que lorsque tu la mettras en pratique. Non. Tu ne seras pieux que lorsque tu seras savant. Car quelqu'un qui n'a pas de science, il ne peut pas être pieux. C'est-à-dire, il peut faire 1000 fautes. Il peut faire 1000 bid'as et croire que, quoi, que c'est comme ça. C'est la piété dans le cœur qui lui dit ça. Mais il n'a pas de science. Donc pour être vraiment pieux et craindre l'Allah, il faut avoir la science. Il a dit, et la science ne t'embellira pas et jamais jusqu'à ton pratique. Quand tu pratiques, tu mets en pratique ce que tu as appris, tu verras comment la science va t'embellir. Tu verras comment la lumière va monter sur ton visage. Naam. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon, le grand, a dit, tous les gens tiennent de belles paroles, Ainsi, celui dont les propos sont en conformité avec ses actes obtiendra sa part de récompense, alors que celui dont les propos sont en opposition avec ses actes, il ne fait que fustiger son âme, il ne fait que fatiguer son âme et elle va être châtiée. C'est contre lui. Je répète, tous les gens tiennent de belles paroles. Tous les gens tiennent de belles paroles. Ainsi, celui dont les propos sont en conformité avec ses actes, celui-là obtiendra sa part de récompense. Alors que celui dont les propos sont en opposition avec ses actes, il ne fait que fustiger son âme. Salim al-Amiri, rahimahullah, a dit, j'ai entendu Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, suffit pour science de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Suffit pour science de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Car en fait, on ne peut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, n'am, que si quoi? Que si on a la science. Sinon quoi? Sinon on le craint d'une autre façon. Mais, yani, à 90% on est dans l'erreur. Mais plus on a de la science, plus on craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Il a dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Un ignorant ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il ne le connaît pas. Il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne connaît pas ses noms. Il ne connaît pas ce que Allah ta'ala aime et ce qu'il n'aime pas. Ce que Allah ta'ala aime pour qu'il le fasse et ce que Allah ta'ala n'aime pas pour s'en éloigner. Il ne connaît pas ça. Donc, il ne peut pas être quoi? Il ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus tu as de la science, plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, nous a dit, apprenez, et lorsque vous aurez appris, pratiquez. Apprenez, profite, apprends. Mais à condition, lorsque tu as appris, pratique. Non, tu n'apprends pas pour apprendre, mais tu apprends pour pratiquer. Donc, la science en elle-même, c'est quoi? C'est pas une fin en elle-même. J'apprends pour apprendre. Non. C'est une clé. J'apprends pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour pratiquer. J'apprends pour pratiquer. Naam. Abu Uthman al-Hirri, rahimahullah, apprenez auprès de Abu Ja'far ibn Hamdan. Et lorsqu'il apprenait 6 hadiths qu'il n'avait pas mis en pratique, il s'arrêtait jusqu'à les pratiquer. Lorsqu'il apprenait 6 hadiths qu'il n'avait pas mis en pratique, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait jusqu'à les pratiquer. Soufiane Thouri, rahimahullah, a dit, aucun hadith ne m'est jamais parvenu sans que je ne le mette en pratique, serait-ce une seule fois. Non, aucun hadith ne m'est jamais parvenu sans que je le mette en pratique, ne serait-ce qu'une seule fois. Ensuite, c'est vrai, quand on apprend une chose du prophète, par exemple, surérogatoire, mustahab, recommandé, ce n'est pas obligé, Annie, de l'appliquer à chaque fois. Mais si au moins, je l'appliquais au moins une fois, pour dire que voilà, cette chose, je l'ai faite quand j'ai pu, bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pour ça qu'il a dit, au moins une fois. Et Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a dit, je n'ai pas écrit un seul hadith sans le mettre en pratique, au point qu'il m'est parvenu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se fit pratiquer une hijam à la saignée et donna un dinar à Abu Taïba, celui qui lui a fait la saignée. Alors je me suis fait faire une hijama, une saignée. Et j'ai donné un dinar à celui qui me l'a pratiqué, subhanallah al-azim. Naam. Donc le prophète sallam a fait la hijama et a donné un dinar à celui qui l'a lui est faite. Il a dit, moi aussi j'ai été faire la hijama et j'ai donné un dinar à la personne qui m'a fait la hijama. Car, Naam, ce n'est pas bien, Naam, surtout pour un savant, de dire aux gens, faites telle et telle chose, alors que lui, il ne fait pas. Naam, ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'on raconte d'Ibn al-Juzay, rahimahullah, celui qui a le livre qui s'appelle le Sayyid al-Khater. C'était quelqu'un, ce savant-là, il était connu pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné cette faveur que quand il faisait un cours, je ne dis pas des centaines venaient, mais des milliers. Il y avait même des chrétiens qui venaient entendre ses cours. Des hommes, des femmes, des chrétiens, des juifs. Et lui-même a dit, au moins 20 000 sont rentrés en islam de par ma cause, bi-idhnillahi ta'ala. Al-Muhim. Celui-là, une fois, avant de faire khutbah Jumu'ah, un esclave s'est approché de lui et lui a dit dans son oreille, il lui a dit, si c'est possible, inshallah ta'ala, dans la khutbah du Jumu'ah, tu parles de, yani, la reconquérir des esclaves en islam. Comme ça, il a dit que mon maître, inshallah ta'ala, s'il va entendre la khutbah, c'est sûr qu'il va quoi? Qu'il va m'affranchir. Il lui a dit d'accord. Quand il est monté sur l'akhor, mimbar, pour faire la khutbah, il a fait les deux khutbahs, il n'a pas parlé de l'affranchissement de l'esclave. L'autre a dit, peut-être, inshallah ta'ala, donc le Jumu'ah, prochain Jumu'ah, il va parler, il a dû oublier. Prochain Jumu'ah, il a attendu, et l'autre est monté, il a fait le khutbah, il n'a pas parlé. Subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il ne peut plus aller lui dire pourquoi tu ne parles pas. C'est pas facile, yani, de faire comme ça, yani, des remarques à un savant. Troisième Jumu'ah, quand il est monté, Naam, il a parlé. Il a parlé, yani, il a fait le khutbah, ensuite il a dit, en islam, c'est bien d'affranchir un esclave, etc. Quand il a terminé, l'autre est allé lui dire, il est allé, barakallahu fik, pour avoir... Il lui a dit, écoute, ça fait longtemps que tu m'as dit de parler de ça. Il lui a dit, Naam, j'ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Naam, tu sais pourquoi? Je sais pas. Il lui a dit, car, quand tu m'as dit comme ça, moi je ne suis pas fou pour aller dire aux gens, affranchissez des esclaves, alors que moi je n'en ai pas affranchi. Alors j'ai attendu que j'ai ramassé un peu d'argent et j'ai affranchi hier un esclave. Alors aujourd'hui, je suis monté sur le mimbar et j'ai demandé aux gens d'affranchir pour que je ne rentre pas dans le verset qui dit « Atta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum » Est-ce que vous commandez aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre ?« Wa antum tatluna al-kitab » afin de dépourvu de raison. Il n'a dit jamais. J'ai attendu d'avoir l'argent, j'ai acheté l'esclave et je l'ai affranchi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a dit là j'ai pu monter sur le mimbar et parler de ce que dit l'islam sur l'affranchissement. El Mouhim. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi, rahimahullah, a dit celui auquel parvient une chose du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit s'y attacher. Celui auquel parvient une chose du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit s'y attacher. Et Soufyan ibn Uyayna rahimahullah a dit le rang, c'est-à-dire le statut de celui qui recherche la science et en tire profit, c'est celui du serviteur qui recherche tout ce qui satisfera son maître, l'en fera aimer et l'en rapprochera. Ahmed ibn Sa'id al-Darimi rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu une parole de Ali ibn al-Madani. Ali ibn al-Madani rahimahullah, c'est l'un des professeurs de Bukhari, l'imam Bukhari rahimahullah. Donc il a dit, j'ai entendu une parole de Ali ibn al-Madani qui m'a plu. C'est quoi? Il a dit, il nous lut le hadith de la grotte. Tout le monde connaît le hadith de la grotte. Les trois personnes qui sont rentrées dans la grotte et la grotte s'est enfermée sur eux. Ils n'ont pas pu sortir jusqu'à... Ils ont fait des doua. Vous connaissez le hadith très connu dans le Bukhari. Il a dit, il nous lut le hadith de la grotte. Il nous a dit, ces hadiths nous ont été transmis pour que nous les mettions en pratique et non pas pour que nous en émerveillons. Non. Comme le hadith de la grotte. Les trois qui sont rentrés dans la grotte, et ça s'est enfermé sur eux, ils ont commencé à faire des doigts, l'un à cause de sa cousine, l'autre à cause de quelqu'un qui a travaillé chez lui, et l'autre à cause de ses parents, ils ne mangeaient pas avant eux. Vous connaissez tous le hadith al-Muhim. Si quelqu'un, ce que veut dire ici Ali ibn al-Madani, il veut dire un hadith pareil, ou bien tous les hadiths, c'est pas on les apprend pour qu'on s'émerveille, pour qu'on raconte à nos enfants, venez, venez, je vous raconte l'histoire de trois personnes qui sont rentrées dans la grotte, et voilà ce qui s'est passé. C'est pas seulement ça, mais c'est pour les mettre en pratique. Toi, quand tu lis le hadith de la grotte dans le Bukhari, tu dois prendre une leçon, tu dois tirer des leçons, tu dis, subhanallah. Donc je prends de ce hadith que il faut s'évertuer et faire des efforts pour faire beaucoup de bonnes œuvres. Car il est possible que je tombe moi aussi, comme ces trois personnes, dans la difficulté. Comme eux, la difficulté de la grotte. Mais toi, ça se peut d'autres difficultés. La difficulté de la prison, de la cellule, de je ne sais pas, un grand problème. Alors là, tu feras comme eux. Tu vas faire des doigts avec les bonnes œuvres que tu as faites. Tu dis à Allah, vous savez que tel jour, j'étais même dans le besoin, mais que j'ai vu quelqu'un qui était vraiment pauvre et que je lui ai donné 50 euros, alors que j'en avais besoin. Mais ya Allah, si j'ai donné ce jour-là à cette personne les 50 euros pour votre visage, alors faites-moi aujourd'hui une solution à mon problème. Et si vraiment ce jour-là tu avais donné cet argent pour Allah, Allah te fera la solution immédiate, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, on prend de. C'est ce qu'on prend à peu près de ce hadith. On prend aussi de ce hadith, par exemple, que c'est l'importance, disons, l'importance de la bonne compagnie. La bonne compagnie. Ils étaient trois dans la grotte. Les trois avaient quoi? Avaient fait de bonnes œuvres. Ils ont fait des doigts avec les bonnes œuvres. Imagine donc qu'il t'arrive un problème dans la grotte, ou là, dans une cellule de prison là, et que tu sois avec deux personnes, l'un qui est fornicateur et l'autre qui boit de l'alcool ou là, se drogue. Donc comment vous allez faire les doigts? Toi tu vas faire et les deux autres, comment ils vont faire? Donc, d'où l'importance de la bonne compagnie. Mais comme ils étaient tous les trois, masha'Allah, ils avaient une bonne compagnie, Allah Ta'ala leur a fait une solution. Donc c'est en ce sens qu'on apprend le dîn et on apprend les hadiths pour pratiquer. Et non pas pour, comme j'ai dit, pour yani, s'émerveiller et raconter comment font les conteurs. Ils racontent ça comme des histoires. Habib ibn Ubayd al-Rahabi, rahimahullah, a dit, apprenez la science, comprenez-la, et instruisez-vous-en. Ne l'apprenez pas pour vous emparer. Ne la prenez pas pour en faire d'elle une parure. Car si vous allez vivre assez longtemps, vous verrez qu'on se parera de la science comme on se pare d'un vêtement. Subhanallah. Naam. Il y a des gens qui comme ça. La science religieuse pour eux, c'est quoi? C'est comme une parure. Juste pour aller être là à la télé, en face de tout le monde et de dire ceci, cela. Alors que lui-même, yani, il ne pratique pas un dixième de ce qu'il a appris. Ça, c'est dans le cas où il a appris yani, des choses vraies. Il n'applique pas le un dixième. Non, pourquoi? C'est juste une parure. C'est juste une parure. Sofiane ibn Uyayna, rahimallah, a dit, le savant, ce n'est pas celui qui distingue le bien du mal. Mais le savant, c'est celui qui connaît le bien et s'y attache. Et connaît le mal et s'en éloigne. Exactement, voilà le savant. Le savant, c'est pas que je connaisse seulement que cette chose est bid'a et cette chose est sunna. C'est tout. Et ça s'arrête là. Non. Le savant, c'est celui qui connaît le bien et il le pratique. Il s'y attache. Et il connaît que cette chose est mal ou bid'a. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en éloigne et met les gens en garde. Il leur dit attention, ça c'est une bid'a. Voilà le savant. Aoun ibn Abdillah, rahimahullah, a dit. Il a dit, fait partie de la complétude, l'âme de la perfection, de la piété, que tu cherches une science que tu ne possèdes pas. Ensuite, il a dit, sache que l'imperfection en ce que tu connais, l'imperfection en ce que tu connais, est due au délaissement du fait d'avoir cherché à l'augmenter. Et sache que ce qui amène l'homme à délaisser la science, c'est le manque de profit qu'il tire de ce qu'il a appris. Allahu Akbar. Naam. Sache que l'imperfection dans ta science que tu as, dans ce que tu connais, c'est dû à quoi? Pourquoi c'est pas parfait? C'est dû au délaissement du fait d'avoir cherché à l'augmenter. Tu n'as pas cherché à augmenter ta science. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui apprennent 2-3 mois, ils disent, ah, pour moi c'est beaucoup. Ah, 3 mois quand même. 3 mois en train d'écouter chaque soir un cours, ou bien 2 fois par semaine, 3 par semaine, c'est beaucoup, j'arrête. 3 mois c'est beaucoup. Certains, une année, ils disent une année, quoi, ils s'arrêtent. Donc il va avoir quoi? Une imperfection dans sa science. Sa science n'est pas parfaite. Il a juste les débuts, il a juste les débuts, c'est toute la science. Et sache quoi? Et sache que ce qui amène la personne à délaisser la science, c'est quoi? C'est le manque de profit que cette personne tire de ce qu'elle a appris. Non. Car elle n'a pas tiré profit de ce qu'elle a appris. Comment qu'on tire des profits de la science? En l'appliquant. Et en quoi? Et en la propageant. En l'appliquant et on la propage aux autres. À quoi ça sert que tu apprennes si tu ne montres à personne, si tu n'apprends à personne ce que tu as appris? À quoi ça sert? Alhamdoulilah, c'est bien pour toi, tu as sauvé ta peau. Mais si les gens autour de toi sont ignorants et surtout qu'ils cherchent à apprendre, ils cherchent, non, et tu ne leur montres pas, donc ta science ne va pas t'être utile. D'accord, s'ils ne veulent pas apprendre, mais allez, tu ne leur apprends pas. Pourquoi ils ne veulent pas apprendre? Naam, ça tu es excusé. Ou alors si tu n'as pas la science nécessaire, tu as peur de leur apprendre des choses fausses ou là. Mais allez, mais il y a toujours, naam, même le plus ignorant a toujours quelque chose qu'il peut faire apprendre aux autres. Par exemple, quelqu'un qui va dire, j'ai entendu par exemple que c'est de la sunna de prier 4 rak'at avant le dhuhr. Il ne connaît que ça, et cette chose, il peut l'apprendre aux gens. Il dit, c'est de la sunna par exemple, qu'il y a 4 rak'at avant l'or, et 2 après. Et certains ont dit 4 après aussi. Donc des choses pareilles, on a toujours une chose à faire apprendre aux autres, toujours. Sauf celui qui vraiment, vraiment, il ne veut pas, ou bien les gens ne veulent pas apprendre, là il est excusé. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a dit ici? Sofiane Thouri, rahimahullah, a dit, on n'apprend la science que pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala à travers elle. Et le mérite de la science sur toute autre chose n'est dû qu'au fait qu'on craint Allah à travers elle. Non, c'est ça le fait. Pourquoi on apprend la science? C'est justement pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala à travers la science. Et le mérite de la science sur toute autre chose, c'est quoi? C'est dû au fait, ou là au fait, qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala à travers la science. Quand il n'y a pas science, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, apprends qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah. Et remarquez avec moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, apprends, fa'alam. C'est un verset. Il n'a pas dit, dis la ilaha illallah. Non, il a dit, fa'alam. Sache que il n'y a de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, il a dit wastaghfir li dhanbik, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tes péchés. Donc apprends, ensuite demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends ensuite, pratique. Apprends ensuite, fais. Apprends ensuite, œuvre. Et comme ça. Sofiane Thouri, toujours, rahimahullah, a dit, la science appelle la mise en pratique. La science, qu'est-ce qu'elle fait quand tu apprends? La science appelle la mise en pratique. Il a dit, soit elle lui répond favorablement, et ou bien soit elle s'en va. Quand quelqu'un a de la science, cette science, automatiquement, elle l'appelle quoi? Elle l'appelle la mise en pratique. Maintenant, si la mise en pratique lui répond convenablement et la personne commence à pratiquer, mashallah, la science va rester. Sinon quoi? Il a dit, sinon la science s'en va. La science ne reste pas chez la personne qui ne pratique pas. Car la science, il lui faut la tesquilla. Il faut lui faire la tesquilla, la purifier, etc. Comment qu'on lui fait la tesquilla? En la pratiquant. Tu lui fais pas la tesquilla de la science que tu as, elle va partir. Elle va partir et te laisser seule. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, il convient à celui qui dépasse les gens en science de les dépasser en acte. Masha'Allah. Masha'Allah. Il convient à celui qui dépasse les gens en science de quoi faire? De les dépasser aussi en acte, pas seulement en science. Ibrahim ibn Ismail ibn Majma' rahimahullah a dit, il a dit, pour faciliter la mémorisation du hadith, nous le mettions en pratique. C'est vrai. Pour ne pas oublier une chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la mettre en pratique. Si maintenant tu apprends un hadith et tu vas le pratiquer, que le prophète faisait telle et telle chose par exemple, et tu vas pratiquer cette chose, tu ne vas pas oublier le hadith. Pourquoi? Tu es en train de le pratiquer, subhanallah, comment l'oublier? Le hadith n'est plus une science, c'est une vérité et réalité. C'est ta vie, tu le vis le hadith. Tu ne l'as pas appris, mais tu le vis. Donc c'est impossible de l'oublier. Sofiane Thouri a dit, rahmallah, les gens se sont intéressés au hadith en délaissant la mise en pratique. En délaissant la mise en pratique. Beaucoup de gens ont voulu seulement apprendre et yani, ont délaissé la pratique. Et bien sûr, le hadith n'est pas resté chez eux. Al-Awza'i rahimahullah a dit, si Allah Ta'ala veut du mal à des gens, il leur ouvre la porte de la polémique et les prive de la mise en pratique. Allahu Akbar, c'est vrai. Ça, yani, on peut dire quoi? On peut même dire que on le vit de nos jours, bi'idhnillahi ta'ala. Cette chose, yani, on la vit, beaucoup de gens la vivent, malheureusement, je dis, beaucoup de gens vivent cette chose, cette situation, malheureusement. Je répète, si Allah Ta'ala veut du mal à des gens, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur ouvre la porte de la polémique. Du matin au soir, on va polémiquer sur telle et telle personne, sur X et sur Y, et en même temps, qu'est-ce qu'il leur fait? Il va les priver de la mise en pratique. Au lieu que j'apprenne, ou alors si j'ai appris, au lieu que j'aille pratiquer ce que j'ai appris, non. Je vais quoi? Je vais passer des heures et des heures à polémiquer. À parler sur X, sur Y, sur X, sur Y. Non, mais le temps passe. Non, c'est la science qui passe. Et c'est la mise en pratique qui y passe. Non, et le temps passe. Et à la fin, je me trouve quoi? Tout le monde a avancé, les gens se sont instruits, les gens sont, mashallah, ont appris la science du hadith, au sol faire ceci, cela. Et moi, je suis toujours à la case zéro, en train de parler X et Y, X et Y. Naam. Sofiane Thouri, rahimallah, toujours a dit, parez la science, parez la parure. Parez la science, embellissez-la en la pratiquant. Mais ne vous parez pas de la science. Mais ne vous parez pas de la science. Plutôt la science, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tel qu'il faut la parer. Parer la science en la pratiquant. Mais ce n'est pas le contraire. Tu vas te parer de la science et tu ne pratiques pas. C'est comme certains, yani, qui se donnent, yani, un habit spécial, comme quoi jamais ils montrent que ce sont des savants. Vous en voyez, il y en a beaucoup. À la télé, Al-Azhar, Ikda, quelque chose, yani, sur la tête, et un vêtement de yani qui fait spécialement savant. Yani, si on lui dit habille-toi comme ça normalement, comme un kamis normalement, il dit non. Il faut spécialement cet habit pour que de loin les gens disent celui-là c'est un savant. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il avait? Il s'est paré de la science. Et si ce savant-là, tu lui demandes des choses, yani, juste des hadiths là, il répond faux. Il te donne des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et les hadiths qui sont authentiques, il te dit, ils ne sont pas authentiques. Et s'il pardonne la aqidah, c'est une catastrophe. S'il pardonne la aqidah, a'oudou billah, vraiment, il est égaré. Égaré, vraiment. Mais il s'est paré de la science. Les gens, quand ils le voient, ils disent, Mashallah, c'est un savant d'El Azhar, celui-là. C'est un grand savant. Je vois le truc rouge sur sa tête, le grand kamis large, et, oh, celui-là, c'est un savant. Malik ibn Dina, rahimahullah, a dit, si le serviteur apprend la science pour la mettre en pratique, elle lui apporte humilité. Mais s'il l'apprend pour autre chose que sa mise en pratique, elle ne fait qu'augmenter son orgueil. C'est vrai, Allah l'adhim. Non. S'il l'apprend, il apprend la science pour la mettre en pratique, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah soit réjoui de lui, elle va lui apporter humilité, khushu'. Non. Mais s'il apprend pour autre chose que la mise en pratique, elle ne fait qu'augmenter son orgueil. Il devient quelqu'un de mutakabbir. Mutakabbir. Quand il te parle, subhanallah l'adhim, il dit, il n'y a pas plus savant que moi ici. Ah, c'est moi le plus savant, vous êtes tous des ignorants. Et ceci, cela, il commence. Pourquoi? Parce qu'il ne pratique pas. C'est quelqu'un qui s'est paré de la science. Il s'est paré de la science. Mus'ar, rahimahullah, rapporte, il a dit, Abdul Ala Taymi m'a dit, celui qui se voit accorder une science qui ne le fait pas pleurer, on peut craindre qu'on ne lui ait pas accordé une science qui lui soit utile. Naam. Il lui a dit, celui qui se voit accorder une science qui ne le fait pas pleurer, alors on peut dire de lui, là, on peut craindre que Allah Ta'ala lui a accordé une science qui ne lui est pas quoi utile. Une science qui n'est pas utile. Le prophète Islam, il demandait à Allah Ta'ala de le réfugier de la science qui n'est pas utile. Il disait, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, je me réfugie auprès de toi d'une science qui n'est pas utile. Il disait aussi, wa min 'aynin la tadma. Et je me réfugie auprès de toi d'un œil qui ne larmoie pas. Non, un œil qui de temps en temps il y a les larmes, qui n'a pas de larmes, qui ne coule pas. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Je me réfugie auprès d'Allah de yani un œil pareil et une science pareille. Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu, a dit, malheur à celui qui ne sait pas une fois. Malheur à celui qui ne sait pas une fois. Et malheur à celui qui sait mais n'applique pas sept fois. Malheur à celui qui ne sait pas une fois. Pourquoi malheur à celui qui ne sait pas? Car celui qui ne sait pas, il n'a pas appris, il a des péchés. Ça? Talabul ilmi farida ala kulli muslim. La demande de la science est une obligation pour chaque musulman. Hadith authentique. Sauf bien sûr pour le musulman qui ne raisonne pas, ou là qui n'est pas encore pubère, ou là qui est trop vieux, il ne comprend pas, ou là qui a la maladie d'Alzheimer, ou là, celui-là il ne rentre pas avec nous. On parle du musulman normal qui peut demander la science, il ne la demande pas. Celui-là il a des péchés, donc malheur pour lui une fois. Et malheur sept fois pour la personne qui sait et qui n'applique pas. Car l'ignorant est mieux que celui qui n'applique pas en ce sens. Non, il est mieux que lui. Pourquoi? Car c'est un ignorant. Mais l'autre, Allah Ta'ala lui a donné la science, il n'a pas appliqué. Il n'a pas appliqué. Donc, cette science n'a pas été utile pour lui. Écoutez ce que dit Ibrahim, rahimahullah. Il a dit, je crois que c'est Ibn Adham, il a dit, je n'ai jamais comparé mes propos à mes actes. Je n'ai jamais comparé mes propos avec mes actes sans craindre que je sois un menteur. Allahu Akbar. Je n'ai jamais comparé mes propos avec mes actes sans que je ne craigne que je sois un menteur. Je suis un hypocrite. Non, un menteur et un hypocrite. Zuhri rahimahullah a dit, on va terminer, il a dit, les gens n'agréent ni les propos d'un savant qui ne met pas en pratique sa science, ni les actes de celui qui œuvre sans science. Non, les gens n'agréent pas les deux. Ni celui qui parle sans mettre en pratique sa science, ni les actes de celui qui œuvre sans science, c'est un ignorant. Et Abu Ishaq Shirazi rahmoullah dit, la science qui n'est pas utile est celle de celui qui sait mais n'applique pas. La science qui n'est pas utile est celle de celui qui sait mais qui n'applique pas. Et pour terminer la dernière phrase, Wahb al-Makki rahimahullah rapporte, Wahb al-Makki rahimahullah rapporte, il a dit, un jeune homme multipliait les questions posées à Umm Darda. Umm Darda, la femme de Abu Darda radiallahu ta'ala, une sahabiya. Il a dit, un jeune homme multipliait les questions à Umm Darda. Qui lui dit, elle lui a dit, écoute, mets-tu en pratique tout ce que sur quoi tu m'interroges? Écoute, je voudrais te poser une question. Mets-tu en pratique tout ce que sur quoi tu m'interroges? Il a répondu non. Elle lui a dit, alors pourquoi augmentes-tu les arguments d'Allah Ta'ala contre toi? Alors pourquoi tu viens augmenter les arguments d'Allah Subhanahu wa Ta'ala contre toi? Car si je t'apprends des choses et tu ne les pratiques pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'augmenter les arguments d'Allah Subhanahu wa Ta'ala contre toi. Ça veut dire que demain, ça va être difficile car tout ce que je t'apprends, ça va se renverser contre toi. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai dit faux, c'est de moi-même, de mon shaitan. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans 10 minutes, un quart d'heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله يا شيخ. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir le PV, Inch'Allah? Donc, les premières questions. Question d'un frère. Salam alaikum, Cheikh. Comment gagner leur vie ces grands savants parmi les pieux prédécesseurs? Avaient-ils un métier à côté de leur apprentissage de la science? Pouvez-vous nous donner des exemples? Comme le grand imam Ahmed Rahimahullah. Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum, Cheikh. Un tablir a dit à un jeune de la mosquée de ne pas apprendre la science, sinon il allait avoir de l'orgueil. Que doit-on répondre face à une parole de ce genre? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, vous avez dit que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la hijama et a donné un dirham. Mais selon un hadith authentique, il a dit pas de salaire pour la hijama. Pouvez-vous nous expliquer, barakallahu fekoum, qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans? Tfadzal, cher.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, comme vous savez, pour les pieux prédécesseurs, yani, la plupart, c'était eux qui travaillaient, disons. Et comme vous savez, autrefois, yani, on était libre. C'est pas comme de nos jours, tu travailles par exemple de 8h jusqu'à 17h. Ça devient, yani, une catastrophe. Tu arrives le soir chez toi, avec le bus, je ne sais pas quoi, chaos. Tu ouvres un livre, yani, tu dis je suis fatigué, je peux pas me concentrer. Et tu vas dormir. Mais la plupart travaillaient chez eux, ils cultivaient de la terre ou comme ça, et donc la plupart travaillaient jusqu'à, disons, vers, yani, maximum, disons, vers midi, l'heure. Ensuite, ils allaient chez eux, et, yani, s'adonnaient à la science. Et beaucoup d'eux, yani, y avait des gens, des riches, qui leur payaient les études. Et beaucoup d'eux, il y avait des riches qui, ou des fois c'est Beit el-Mal, des fois c'est l'argent de l'État, c'est le gouverneur par exemple, qui leur donnait. Et des fois non, c'est des gens privés qui disaient, moi je voudrais, yani, être la cause pour que quelqu'un, yani, pour que je sois la cause, pour que quelqu'un étudie. Yani, ensuite, enseigne et propage cette science comme ça va m'arriver demain dans ma tombe. Quand je vais dans ma tombe, Inch'Allah Ta'ala, il y a toute la science qui va être propagée. J'en ai été la cause, si je puis dire. Allah Ta'ala m'a donné cette faveur. Naam. Et comme j'ai dit aussi, des fois, ce sont eux, yani, qui travaillaient, des fois, c'est l'État qui leur donnait le gouverneur quand ils tombaient avec un gouverneur, yani, mashallah. Et des fois, c'est des gens privés, des gens comme ça, yani, privés, qui leur faisaient ce qu'on appelle un salaire, leur donnaient un salaire pour qu'ils apprennent. Et c'est pour ça que les savants disent, par exemple, que dans la zakat, lorsque Allah Ta'ala a dit à la fin, il a dit, wa fi sabilillah, ils ont dit, dans fi sabilillah, entre deux choses. Entre le djihad et le hajj. Et dans le djihad, entre quoi? Entre le fait de donner la zakat à quelqu'un qui demande la science religieuse. Si quelqu'un demande la science religieuse, il voudrait apprendre des livres, il voudrait acheter des livres de dîn, etc. pour apprendre, Cheikh Ibn Uthaymeen et beaucoup d'autres ont dit c'est permis de lui donner de la zakat. Car le djihad en islam se divise en deux. Il y a le djihad de l'épée, il y a le djihad de la science. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, en parlant du Coran, Allah Ta'ala dans un verset, en parlant du Coran, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. En parlant de quoi? Du Coran. Il a dit, Ya Muhammad, fais-leur le djihad avec le Coran. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ. Comment qu'on fait le djihad du Coran, avec le Coran? Au lieu de l'épée, c'est le Coran. Ça veut dire qu'on propage les versets et du Coran. Et yani, on dit aux gens, voilà ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et on refute. On refute les choses qui sont fausses, les propos qui sont faux. Ça, c'est un djihad. Le djihad de la science est, comme disent les savants, plus important que le djihad de l'épée. Car le djihad de l'épée, tout le monde peut le faire. Mais le djihad de la science, il faut être savant pour le faire. Naam. Moi, voici, Inch'Allah Ta'ala, en grosso modo, yani, la réponse à la première question. C'est pour ça que même de nos jours, yani, c'est bien de pour ceux qui ont de l'argent, de trouver quelqu'un et Inch'Allah Ta'ala, de le payer, même de lui donner une paye. Pourquoi? Pour qu'il demande, Inch'Allah Ta'ala, de la science. Pour qu'il apprenne la science, pour qu'il propage la science. Bidnaï Ta'ala. Pour la deuxième question. Salam alaykoum, Cheikh, un tablir a dit à un jeune de la mosquée de ne pas apprendre la science, sinon il allait avoir de l'orgueil. Que doit-on répondre face à une parole de ce genre? Vous savez, il n'y a pas plus ignorant que les tablirs. Les tablirs font partie des cercles les plus ignorantes qu'il puisse y avoir en islam. Le tabliri, il te dit, il y a seulement deux livres que tu dois lire dans ta vie. L'un qui s'appelle Riyad Salihin et l'autre qui s'appelle Nisab Tablir. Quelqu'un que le grand chef Kandahlawi leur a écrit. Nisab Tablir. Et à l'intérieur, il est plein de shirk. Ils disent, à part ces deux-là, il ne faut rien apprendre. Donc un tabliri, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? On peut lui dire, explique-nous pourquoi. Pourquoi le premier verset qui est descendu a dit, apprends. Il a dit, Iqra. C'est le premier verset qui est descendu, ça. Iqra bismi rabbik. Comment se fait-il que le premier verset, comment se fait-il qu'il ait dit, Iqra, va lire, il va apprendre, et toi tu nous dis, il ne faut pas apprendre. Ensuite on lui dit, est-ce que c'est toi qu'on doit croire, quand tu dis, il ne faut pas demander la science? Ou bien le prophète, quand il a dit, la quête et la demande de la science est une obligation pour chaque musulman. Qui on doit croire? Toi ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Al-Muhim. Je ne réponds qu'avec cela. Sinon, il y a un tabliri, comme vous savez, c'est quelqu'un auquel il faut faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide. C'est quelqu'un auquel il faut faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide. Et le plus malheureux dans les tabliri, c'est quoi? C'est qu'ils ils vont de pays, de ville en ville, pour propager l'islam. Comment tu propages l'islam alors que tu ne connais rien de l'islam? Si on n'apprend pas, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? On va leur apprendre, ils nous posent des questions, on n'a pas de réponse, comment qu'on fait? Donc, apprends d'abord, ensuite quoi? Ensuite propage. Apprends, ensuite propage. Et on dit à ce tabliri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'avantage qu'a le savant, sur l'adorateur, c'est comme l'avantage qu'a la lune sur les autres astres. Hadith authentique. L'avantage du savant sur l'adorateur, c'est comme quoi? C'est comme l'avantage de quoi? De la lune sur tous les autres astres. Où on est tutoie, il y a tabliri, il y a miskin, il y a pauvre, il y a idiot. Il y a idiot, miskin, tu es un petit idiot toi, un petit miskin. Quand on va pas perdre beaucoup de temps avec toi. Al-Mouhem, question avec le cours. Vous avez dit que le prophète sallam a fait la hijama et a donné un dirham. Mais selon le hadith authentique, il a dit pas de salaire pour la hijama. Pouvez-vous nous expliquer, barakallahu fikum? Je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, n'a pas dit comme ça, pas de salaire pour la hijama. Mais il a dit que trois choses n'étaient pas bien. Entre autres, il a dit, yani, l'argent que prend celui qui fait la hijama. Comme ça, il a dit. L'argent que prend celui qui fait la hijama et l'argent que prend celle qui fait la fornication et l'argent que prend le devin. Il a dit ces trois choses ne sont pas bien. El Mouhim, qu'est-ce qu'on va dire donc? On va dire, puisque le prophète Aslam a donné de l'argent à celui qui a fait la hijama, et le hadith qui a dit que cet argent n'est pas bien, pour grouper entre ces deux choses qui apparemment sont contradictoires, mais en fait ne le sont pas, on va grouper d'une des deux façons. La première, ou bien on va dire, donc c'est makruh. Yani, prendre de l'argent de la hijama, c'est pas haram. C'est seulement makruh. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Parce qu'il a donné. Le Nabi Salam ne fait pas de haram. Donc, c'est makruh. Ou bien, si on va prendre de l'avis qui dit que c'est haram de prendre l'argent de la hijama, comment qu'on va faire avec le hadith qui a dit que le prophète Aslam a donné, on va dire, Naam, toi tu donnes, et l'autre, celui qui fait la hijama, n'a pas le droit de prendre. Vous dites, subhanallah, comment? Moi je donne, il n'a pas le droit. Naam, ça existe ça en islam. En islam, ça existe. C'est comme par exemple dans le meurtre. Le meurtre qu'on appelle Shibhul Amd, qui ressemble au meurtre intentionnel. Car les meurtres, il y a trois sortes. Le meurtre intentionnel, amden, et celui qui lui ressemble, et le meurtre qu'on ne fait pas exprès. Naam. Celui qui est au milieu, qui ressemble à l'intentionnel, qu'est-ce qu'on fait dans ce meurtre-là? On doit, je dis bien, on doit livrer l'assassin à la famille de qui? À la famille de celui qui est mort, du défunt. On doit lui livrer l'assassin. Mais attention, ils n'ont pas le droit de l'exécuter. Donc vous voyez, c'est contradictoire. D'un côté, on doit le livrer l'assassin. Mais pourquoi vous me livrez l'assassin? Il a tué quelqu'un de ma famille, je dois le tuer. Mais le hadith dit, attention, c'est interdit de le tuer. C'est à peu près ici la même chose. Je donne à celui qui a fait hijama, je lui donne l'argent. Mais en principe, il ne doit pas prendre. C'est lui, pour lui, c'est haram. Si on prend l'avis que c'est haram. Si on prend l'avis que c'est makruh, il prend. C'est tout. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadal pour d'autres questions.
Donc, la question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. La science est une obligation pour le musulman, qui peut être à notre avantage, comme peut témoigner contre nous. Il y a des choses que l'on sait, mais qu'on ne fait pas. Peut-on poser des questions, sachant que la science, on ne la mettra pas forcément en application dans certains cas? Peut-on avoir des péchés? Astaghfirullah. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah, qu'Allah vous préserve. Vous avez parlé du fait que les sahaba donnaient de l'argent aux nécessiteux. De nos jours, nous voyons de nombreux nécessiteux demandant de l'argent. La question que je me pose, incitons-nous ces personnes à mendier en leur donnant de l'argent? Allah yajazakum bikhir. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hafizakum Allah. Je voulais vous demander, qui a dit, celui auquel il parvient quelque chose de comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y attache? Min fadlikum. Et le hadith authentique que vous avez cité, la demande de la science est une obligation pour chaque musulman. Où peut-on le trouver? Est-ce que l'on doit s'abstenir de dire à quelqu'un de faire quelque chose que nous-mêmes nous ne faisons pas lorsque l'on voit une erreur chez lui, ou est-ce que l'on doit se forcer de le faire et ensuite lui dire? Quelle est la meilleure situation dans laquelle nous avons moins de péchés? Donc pour le fait que le cheikh n'a pas fait cours samedi, non, il nous avait prévenu mercredi dernier puisque c'était le Eid. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous protège ainsi que votre famille et qu'il vous accorde le paradis. Tfadal cheikh.
Seconde, puisqu'une personne a demandé un hadith où il se trouve, je vais lui donner le hadith, une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc une seconde, je vais lire la première question. Tayyib. La science est obligation pour les musulmans, qui peut être un autre avantage qu'on peut témoigner contre nous. Il y a des choses qu'on sait mais on ne fait pas. Peut-on poser des questions sachant que la science on la mettra pas forcément en application? Dans certains cas, peut-on avoir des péchés, astaghfirullah. Je dis, nam, yani, tant qu'on a la possibilité d'apprendre, il faut apprendre. Tant qu'on a la possibilité d'apprendre, il faut apprendre. Mais en même temps, il faut faire le maximum d'efforts pour appliquer ce qu'on a appris. Ne serait-ce que de faire la chose de temps en temps. Ne serait-ce que de faire la chose au moins une fois. Au moins une fois. Pourquoi j'ai dit que quand on a l'occasion d'apprendre, on apprend? Car quand tu es déjà en train d'apprendre, donc déjà tu as les récompenses. Car le fait d'apprendre, c'est en elle-même. C'est en soi une adoration. Apprendre pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Donc toi, dès que tu apprends déjà, alhamdoulilah, tu as des récompenses. Et la deuxième des choses, pourquoi j'ai dit apprends, car même si aujourd'hui tu n'appliques pas, il se peut que demain, il y ait un déclic dans ton cœur et tu commences à appliquer. Et quand tu commences à appliquer, tu dis alhamdoulilah que j'ai appris, que je connais toutes ces choses-là. Sinon, yani, si je n'avais pas appris, ça aurait été trop tard. Donc il faut apprendre, bidnat ta'ala, et essayer d'appliquer, inshallah ta'ala. Naam. Ça veut dire que vous avez parlé du fait que les sahaba donnaient de l'argent nécessiteux. De nos jours, nous voyons un nombre nécessiteux demandant de l'argent. La question est, incitons-nous ces personnes en leur donnant de l'argent à mendier? En fait, ces personnes, on ne les incite pas car tu leur donnes ou tu leur donnes pas, ils ne vont pas s'arrêter de mendier. Tu vas leur donner tout l'or du monde, celui qui a le vice de mendier ne va pas s'arrêter. C'est un vice, je dis. Maintenant, ceux qui yani, tendent leurs mains vraiment par nécessité pour manger, pour boire, si on va les compter sur les doigts yani, de la main, ça va suffire. Ils ne sont pas nombreux. Peut-être dans toute la France, peut-être il y a 20 qui, lorsqu'ils mendient, vraiment ils n'ont pas de quoi manger. Tous les autres, ils font ça par vice. Il y a même maintenant des familles, le père, la mère et les enfants. Ils louent une voiture et ils vont, par exemple, à la capitale, à Alger. Ils viennent, par exemple, d'une ville. Ils déposent les enfants dans un endroit, la mère dans un endroit et le père dans un endroit. Et ils mendient comme ça du matin jusqu'au soir. Surtout, là où il y a l'encombrement, où les voitures s'arrêtent pour qu'ils viennent devant ta fenêtre, ta porte, et ils te disent donne-moi. Et le soir, ils se donnent rendez-vous, par exemple, à 18h, on se rencontre devant tel endroit et ils louent une voiture ou bien ils ont une voiture. Et ils vont chez eux et ils comptent combien qu'ils en font. Hier ou avant-hier, on a demandé à une femme ici en Algérie, à la télé, on lui a demandé, c'est le genre de femme qui mendie dans la rue. On lui a dit, combien tu fais à peu près en une journée? Elle a dit, je fais à peu près 1 million. 1 million de centimes par journée. 1 million de centimes, c'est chez vous à peu près 70 euros, 80 euros là, par jour. Subhanallah l'adhim. Ça veut dire que elle fait 30 millions par mois. 30 millions par mois. C'est-à-dire à peu près le salaire d'un ministre. Donc je dis, quand quelqu'un veut donner de l'argent, qu'est-ce que c'est écrit ici? Quand quelqu'un veut donner de l'argent à quelqu'un, l'âme, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux qu'il cherche quelqu'un qui soit vraiment nécessiteux ou bien qu'il donne à des nécessiteux de sa famille. Il y a des gens de la famille qui, même s'ils travaillent, ce sont des nécessiteux. Même s'ils travaillent, la paye ne lui suffit pas. La paye, l'âme. Il paye l'électricité, il paye ceci, cela, il a des enfants, etc. Ça ne lui suffit pas. Donc il vaut mieux donner à ceux-là. Et comme vous savez, le hadith authentique, que celui qui donne à un nécessiteux de sa famille a deux récompenses. La première, pour avoir fait l'aumône. La deuxième, pour avoir, yani, fait le lien de parenté. Naam. L'autre question est la dernière. Je vous ai demandé qui a dit, celui auquel il parvient quelque chose de comportement du prophète, s'y attache. Tayyib, qui a dit ça? Une seconde, je vais voir qui a dit ça. Je vais voir qui a dit ça. C'est Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi a dit, celui auquel parvient une chose du comportement du prophète Aslam doit s'y attacher. Vous pouvez lire ça, vous pouvez trouver ça dans Sir, Sir de Dhahabi, le livre, yani, le, si je puis dire, yani, plus, yani, peut-être recherché dans le monde. Il a au moins 15 ou 20 tomes. Ce livre-là, yani, pour quelqu'un qui a l'arabe et qui le lit, il peut rester des heures dans ce livre sans pouvoir le quitter. Pourquoi? Il parle de qui? Il parle de tous les sahaba et tous les savants. Jusqu'à son époque à lui, Dhahabi. Il parle de Ibn Taymiyyah, tous les savants qui ont existé avant lui, jusqu'à ce qu'il monte au sahaba, il te donne quoi? Il te donne, yani, une biographie d'eux. Une biographie, c'est pas seulement dans le sens il est né tel jour, non, c'est pas ça. Surtout, comment qu'il appliquait. Tel sahabi, comment qu'il priait la nuit, tel sahabi, comment qu'il jeûnait, ceci, comme ça qu'il parlait. Comme ça qu'il y a dans son livre. Le Mohim, je dis, c'est hier, tome 13, page 358. Tome 13, page 358. Ensuite, le hadith que vous avez cité, la demande de la science, c'est une obligation pour chaque musulman. Où peut-on le trouver? On peut le trouver dans, par exemple, Sunan ibn Majah, ou alors dans Sunan ibn Majah, authentifié par Sheikh Al-Albani, par exemple dans Sahih Sunan ibn Majah. Sahih Sunan ibn Majah. Voilà, pour ceux qui ont l'arabe, wa rawa ruwi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه وغيره الشيخ الألباني رحمه الله أدي صحيح أوتنتيك أدي أوتنتيك نعم دون صحيح ابن ماجه دون son livre صحيح ابن ماجه duquel je viens de faire sortir le hadith. طيب est-ce que l'on doit s'abstenir نعم une seconde. Une seconde. Est-ce que je suis connecté ou pas? Alhamdulillah. Est-ce que l'on doit s'abstenir de dire à quelqu'un de faire quelque chose que nous-mêmes ne faisons pas lorsqu'on voit une erreur chez lui, ou est-ce que l'on doit se forcer de le faire et lui dire? Quelle est la meilleure situation dans laquelle... Non. Quand on voit quelque chose faire une faute, on doit lui dire. Si on peut, bien sûr. On doit lui dire que ici il y a une faute, même si nous on fait cette faute. Mais bien sûr, la meilleure des choses serait que nous on la fasse pas, pour que quoi? Pour qu'on lui dise. Mais des fois, yani, nous-mêmes on n'a pas encore une chose. Nous-mêmes on n'a pas encore arrêté de faire ce péché, et ça ne veut pas dire que si moi je n'ai pas encore arrêté de faire ce péché que je laisse les gens faire le péché et je leur montre pas que c'est un péché. Non, je leur montre que c'est un péché et je dis que Yani Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne ce que je suis en train de faire. Comment yani, je montre aux gens et moi je n'ai pas appliqué. Mais je ne fais pas deux fautes. C'est quoi les deux fautes? C'est de ne pas appliquer et de ne pas montrer. Tu as fait deux fautes. Au moins quand tu montres aux gens et tu n'appliques pas, tu as fait une récompense. Pourquoi? Au moins je leur ai montré que cette chose c'est une bid'a ou que cette chose c'est un bien. C'est un bien pour qu'ils le fassent. Reste que moi je n'ai pas appliqué. Qu'Allah me guide, qu'Allah me pardonne, c'est moi le fautif, je reconnais l'erreur. Mais je ne vais pas faire une deuxième faute de ne pas montrer aux gens, et de quoi? Et de cacher la vérité. Mais la meilleure des choses serait bien sûr que je fasse les deux. C'est-à-dire que j'applique et que je montre. Taïb, t'fadla inshallah pour d'autres questions.
Donc, question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Barakallahu fekoum de donner de votre temps pour nous aider. Ma question concerne la pratique de la science. Je sais très bien que la femme doit être voilée, que c'est une obligation, mais en étant divorcée et ayant des enfants à charge, je travaille et je ne porte plus le voile. Je travaille à l'hôpital. Je sais que devant Allah, ce n'est pas une excuse, mais je n'ai pas trop le choix. Est-ce que c'est un grand péché et quels conseils pouvez-vous nous donner, Barakallahu fekoum cher, qu'Allah nous guide dans le droit chemin et qu'il augmente notre foi. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Quel conseil pouvez-vous donner aux sœurs par rapport à l'apprentissage et l'éducation des enfants, ainsi que l'entretien du foyer? Barakallahu fekoum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Qu'Allah vous préserve, cher. Est-ce qu'en Algérie, il faut l'autorisation de la première femme pour pratiquer la polygamie. Jazakumullah khairan. Tfadal cheikh.
Naam, inshallah ta'ala. Pour répondre d'abord à la première question, ensuite les admins, dites-moi s'il n'y a pas une sœur qui vous a contacté. S'il n'y a pas une sœur qui vous a contacté pour un problème personnel. Si c'est le cas, faites-moi en part. Barakallahu fikum. Al-Muhim. Je reviens jeudi. Pour la personne qui a dit qu'elle n'avait pas beaucoup le choix, qu'étant divorcée, elle doit travailler, etc. Je dis, Naam, de la Macédoine, c'est vrai. Donc je dis, en fait, il faudrait craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, craindre Allah subhanahu wa ta'ala et se mettre entre les yeux le hadith qui dit que Yawm al-Qiyama, celle qui n'est pas voilée ne rentrera pas au paradis. Quand la personne va mettre ce hadith entre ses yeux, elle va avoir peur. Elle va dire, donc moi, pourquoi je suis en train de me fatiguer jours et nuits? Et si le vrai sens du hadith n'est pas qu'elle ne rentrera pas du tout au paradis, mais qu'elle passera d'abord par le azab, châtiment avant d'aller au paradis, qu'elle ne rentrera pas parmi les premières qui vont entrer au paradis, celles qui étaient voilées dans ce bas monde. Mais que par contre, elle doit attendre d'abord, yani, voir son jugement pour le fait qu'elle n'ait pas porté le voile et qu'elle ait fait ce grand péché. Je dis, une personne, yani, ou là une femme, ou là, qui ne porte pas le voile et qui yani, essaie de donner comme ça des excuses, elle doit faire tout sont possibles pour voir comment y remédier et comment yani, s'éloigner de ce grand péché. Comment faire? Par exemple, elle doit chercher le mariage. Elle est divorcée, elle cherche le mariage. Même si elle va dire je suis âgée ou là j'ai des enfants ou là, toutes les femmes du monde se marient. Si yani, elles font quoi? Elles font les causes. Allah subhanahu wa ta'ala va leur ouvrir la porte. Même si un peu en retard ou là, pas avec celui qui convient à 100%, mais Allah Ta'ala va ouvrir la porte. Ensuite, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, qu'en France, quand une femme est divorcée et qu'elle a des enfants, que si elle reste à la maison, je crois qu'il y a des aides. Il y a des aides. Et la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala se suffit au minimum. La personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle se suffit? Elle dit, moi, alhamdoulilah, j'ai de quoi manger, de quoi boire, de quoi payer par exemple le loyer, ceci, cela, alhamdoulilah, tant que je ne suis pas obligé de mendier et de donner, de tendre ma main dans la rue. Je dis Alhamdoulilah jour et nuit et je suis dans ma maison, Mustora, et quand je sors voilé, Alhamdoulilah, rien ne me contraint à aller, yani, me déshabiller devant les hommes. J'ai dit me déshabiller à la fois, découvrir mes cheveux devant les hommes. Comme j'ai dit, yani, c'est un grand péché. La personne doit essayer de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum et de faire des doigts, beaucoup de doigts, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui trouver une solution. De lui trouver une solution pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne, yani, de sa colère, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Quel conseil pouvez-vous donner aux sœurs par rapport à l'apprentissage et l'éducation des enfants, ainsi que l'entretien de la maison, etc. Je reconnais que la sœur, quand elle est mariée, et que elle aura alors l'éducation des enfants, l'entretien de la maison, alors, et l'apprentissage, que l'apprentissage devient plus ou moins difficile. C'est pour cela que le mariage pour elle, ça va être un frein. Mais c'est obligé qu'elle se marie. Mais elle doit voir, yani doit faire son possible pour faire un emploi du temps. Pour faire un emploi du temps. Naam. Voir comment, yani, joindre entre les deux. Même si le premier mois, deuxième mois, c'est un peu difficile. Mais ensuite, vite, elle va prendre le pli, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, prendre le pli, comment, yani, joindre entre les deux. Même si je diminue un peu de la quête de la science, c'est pas chaque soir par exemple, mais je peux par exemple une fois par semaine, deux fois par semaine, naam, voir comment faire avec les enfants, surtout avant qu'ils soient encore jeunes, les faire dormir tôt, etc. Pour inshallah ta'ala demander la science, surtout que de nos jours, yani, ce n'est pas comme autrefois. Si la sœur. Salam alaikum, musulman, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Donc, envoie-moi pour le PV. C'est ouvert si tu veux m'envoyer pour les questions. Et dis-moi, yani, ça s'est coupé où exactement? Qu'est-ce que j'avais dit avant que ça se coupe? Dans quelle question ça s'est coupé? Contacte-moi vite pour que je ferme le PV.
Naram, cher, si mes souvenirs sont bons, ça a coupé au moment où vous disiez. Les femmes d'autrefois, ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Allahu a'lam, si les frères peuvent confirmer, ça a coupé à ce moment-là. Tfadat, cher. Comment vous répondiez sur l'apprentissage de la science pour la sœur, qui doit s'occuper du foyer, etc. Et comme j'ai dit, si mes souvenirs sont bons, vous disiez, donc la femme d'autrefois, ce n'est pas comme la femme d'aujourd'hui. Allahu a'lam. Tfadat, cher.
D'accord, donc la femme d'autrefois, c'est pas comme la femme d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dit que, alhamdoulilah, il y a Internet et que c'est très facile, là, t'as la facilité. C'est pas comme autrefois, peut-être qu'elle devait changer de ville, aller d'une ville à une autre pour écouter un cours ou là, quelque chose comme ça. Donc, alhamdoulilah, de nos jours, c'est facile. Et la personne qui est sincère dans son intention, Allah Ta'ala lui fera une solution. Il faudrait juste voir comment, yani, qu'elle gère son temps, bi'idhnillah ta'ala. Al-Muhim. Enfin, pour la dernière question, je dis, en Algérie, c'est vrai, pour quelqu'un qui veut se marier avec une deuxième, il faudrait que la première lui signe. En Algérie, pour que quelqu'un puisse se marier avec une deuxième femme, il y a une loi qui dit comme ça, une loi qui est, bien sûr, contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui dit qu'il faudrait que ce soit la première qui lui signe. Alors qu'en islam, il peut se marier sans même dire à la première qu'il va se marier. Al-Muhim. Donc, inshallah ta'ala, on passe aux trois autres questions. Mousleh Wasmak, Akh Mohamed, confirme-moi pour la sœur de Macédoine si elle est avec nous. Confirme-moi.
Non, donc les trois prochaines questions. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakumullah. Je voulais savoir au jour de la résurrection, lorsque nous serons ressuscités et que nous attendrons le jugement dernier, prendrons-nous la taille de Adam alayhi salam ou garderons-nous la taille que nous mesurons ici-bas? Je parle bien du jugement dernier et non du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Barakallahu fikoum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur reconvertie veut être sûre que son mariage ait bien été validé, car elle a été mariée par un imam qui n'est pas du minhaj salafi, donc elle voudrait savoir si son mariage est bien valide. Wa jazakumullahu khairan. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum cher. Qu'Allah vous bénisse. Est-il permis d'utiliser la main gauche pendant que l'on mange, sans manger avec? Car je sais que manger de la main gauche est interdit. Mais je veux dire, est-il permis de tenir la nourriture avec, la découper, tant qu'on ne porte pas la main gauche à la bouche pour manger? Et que faire si, par exemple, sans vouloir, on constate qu'il y a de la sauce sur la main gauche? Doit-on la lécher ou pas? Expliquez-moi, cher. Wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
طيب avant de répondre inchallah ta'ala à ces trois questions, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important inchallah ta'ala. Alhamdulillah, donc vous m'entendez. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont avec nous, et des musulmans et des musulmanes qui des fois ont des problèmes monstres et qui souffrent beaucoup. Entre autres, je voudrais vous parler ce soir d'un problème d'une sœur reconvertie, comme il y en a tant, yani, de problèmes pareils, qui a vraiment un grand problème avec son mari. Un grand problème, bien sûr, d'après ce qu'elle dit, elle, yani, que son mari, c'est vraiment la catastrophe. C'est le genre qui boit l'alcool, le genre qui fait la zina, d'après elle, parce que c'est lui qui dit. Lui dit, fais la zina et je vais faire le test de sida pour voir si j'ai pas de sida, qui la bat, qui ne s'arrête de qui n'arrête de l'insulter, etc. Un mohim. Mille et une choses. Vous m'entendez, muslim? Or, cette sœur, hein, puisqu'elle vit avec lui à l'étranger, a profité du moment où elle est avec elle en France. Elle a profité pour donc décider de ne pas revenir vers lui, de ne pas revenir avec lui. Et lui, il a profité aussi, et lui a volé deux de ses enfants. Donc il est parti, il a su qu'elle n'allait pas venir, il lui a volé deux de ses enfants. Cet homme, entre autres, à part les grands péchés qu'il fait, l'alcool, les femmes, etc., il lui a imposé de signer, car elle étant française, donc elle lui signait en son nom, à elle. Et il a fait beaucoup de dettes en son nom. Donc maintenant, quand elle est en France, elle n'a même pas le droit, yani, de recevoir ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, les allocations, etc. Parce qu'elle-même, yani, elle est pleine de dettes. Et elle n'a pas le droit d'ouvrir un compte, etc. Donc maintenant, elle se trouve seule avec sa fille, deux ou trois jours de séjour dans la maison où elle est. Où elle est là en France, avec son mari qui est parti. Donc, nous on demande, est-ce qu'il y a une personne qui voudrait pour, fissabillah, subhanahu wa ta'ala, aider cette sœur pour deux choses. La première, pour l'héberger. Parce que dans deux ou trois jours, ou alors cinq jours, elle sera dans la rue avec sa fille, n'ayant pas de maison, et n'ayant pas un sou dans la poche, même pas un euro dans la poche. Donc s'il y a quelqu'un, ou alors quelqu'une, hein, qui aurait par exemple une chambre, qui pourrait l'aider à l'héberger au moins deux ou trois mois. Car je lui ai dit, moi, que d'ici deux ou trois mois, Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution. D'ici deux ou trois mois, Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution. Et ensuite, elle pourra changer de cette, par exemple, si elle va chez un couple, chez une sœur ou là, Ensuite, dans 2-3 mois, elle va chez une autre. Et comme ça. Non, ce n'est pas obligé, yani, pour une personne de l'héberger toute sa vie avec elle. Mais juste quelques temps, le temps, yani, qu'elle se stabilise. Car maintenant, restant en France et étant française, avec ce qu'il y a comme loi de France, etc., je suis sûr que, bidna ta'ala, il y aura une solution. Car, yani, quand quelqu'un est français et qu'il est en France, je sais qu'ils ne vont pas le laisser comme ça. Donc, je ne sais pas comment qu'elle va faire, je ne connais pas les trucs là-bas. Mais elle pourra, inshallah ta'ala, bidna ta'ala, trouver une solution. Donc, ce que je demande, la première des choses, s'il y a quelqu'un, ou là un couple, ou là une sœur, qui vit seule, ou qui est divorcée, ou bien qui est encore célibataire, qui a de l'espace chez elle. L'espace, c'est seulement une pièce. Une pièce. Ou alors, si la pièce est, elle a une seule pièce, et la pièce est assez grande, mais allez, ils peuvent se partager la pièce. Yani, comme a dit Allah Ta'ala, yuhibbuna min hajara ilayhim. Ils aiment ceux qui font la hijra vers eux, pour les aider. Al-Muhim, ça c'est, inshallah Ta'ala, la première proposition, bidna ta'ala, comme j'ai dit, 2 ou 3 mois, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une solution. La deuxième chose, vous avez remarqué que moi, je ne fais ça que rarement dans mon salon. Peut-être ça fait maintenant 2 ou 3 ans, j'ai pas parlé de quelqu'un. La deuxième des choses, c'est que s'il y a quelqu'un, ou là nous, dans le salon, si on pouvait l'aider, yani financièrement, le temps que elle puisse se stabiliser. Yani juste les 2 ou 3 premiers mois, la route, déjà, elle a une fille avec elle. Elle a une fille avec elle. Nam, cette sœur-là est prête à aller dans n'importe quelle ville où elle peut trouver un hébergement. Actuellement, là, au moment où je vous parle, elle est dans une ville qui s'appelle Antibes. Qui s'appelle Antibes. C'est du côté de Nice. C'est du côté de Nice. Mais, yani, comme elle m'en a fait part, elle dit que là où elle trouve l'hébergement, elle est prête à faire 200 km, 300 km. Même si elle doit aller à Marseille, à Paris, l'essentiel c'est de, yani, trouver ou se caser, comme on dit. C'est de se caser le temps que Allah Ta'ala lui fasse une solution. Car cette sœur-là, elle vit vraiment le calvaire avec cet homme. Cet homme-là, elle vit avec lui le calvaire. Si vous savez ce que c'est le calvaire, quand quelqu'un va boire et il vient à la maison comme ça, il dit, je vais ramener ici de l'alcool et j'ai dormi hier avec telle et telle fille et ceci, cela. Il dit que mère n'est pas une, juste elle fait ça, juste d'Ama, c'est pas vrai, elle va aller en enfer, il là-bas, un mohème. C'est Yanni de l'enfer. Comme je lui ai dit, moi, que tu restes seul, sans mari, toute ta vie, mieux que d'être marié avec quelqu'un pareil. C'est une ni'ma pour une femme. C'est une ni'ma pour une femme qu'elle vive seule. Seule. Ma'alish. Sans mari. Ma'alish. Elle a mal, elle a ceci, elle a besoin d'un homme, mais ma'alish. Sans mari, plutôt qu'avec un monstre. Plutôt avec quelqu'un qui rentre, il m'insulte, il sort, il m'insulte, il rentre, il me bat. Il sort, il me bat. Quoi ça sert? Je préfère être seul, seul. J'ai pas besoin d'homme. J'ai pas besoin. Je vis seul, mais apaisé, alhamdoulilah. Donc, quand je veux, je ni'ma. Les sœurs qui sont seules, qui vivent seules, et qui ne sont pas avec un monstre, elles sont dans une ni'ma. Wallah, elles sont dans une ni'ma. Elles sont mieux que celles qui sont avec un monstre. A'oudou billah. Al-Muhim. Inch'Allah Ta'ala que yani, j'ai fait ce que je devais faire et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande la réussite. Vous avez des admins avec vous pour celui qui veut aider. Comme on est maintenant, combien qu'on est dans la salle? Imaginez, on est 178 personnes. Imaginez que 150 personnes, 150 d'entre nous, 150 disent on va lui donner chacun 1 euro, 1 euro par mois. Combien ça va faire? Si on va dire on va donner seulement 2 euros, c'est quoi 2 euros, fils Abdullah? Ça va lui faire 300 euros par mois. Le temps que, yani, inshallah ta'ala, Allah l'aide et qu'elle prenne, yani, les allocations, je ne sais pas ce que. Comment qu'on appelle ça? Bi'idnillahi ta'ala. dit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donner. Yani, fi sabilillah, Allah ta'ala a dit, c'est lui qui le, yani, qui le redonne. Qui le redonne. Personne qui fait quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, va lui faire une solution à elle-même. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, les meilleurs des gens, ce sont les plus utiles aux autres. Il a dit, la meilleure chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Il a dit, que tu chasses la faim du ventre de quelqu'un. Que tu lui donnes le sourire à une personne, à ton frère. Que tu lui payes une dette. Il a dit, quiconque, il a dit que, c'est un hadith authentique, le prophète a dit, il a dit que j'aille avec mon frère pour son affaire, pour qu'il fasse son affaire, s'il a une affaire, il a dit pour que je marche avec lui, c'est mieux pour moi que de faire une irtikaf, la retraite, elle dit que la retraite, c'est pas comment ça s'appelle, la retraite pieuse, pendant un mois. Comme ça dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que je marche avec mon frère, pour qu'il fasse la chose qu'il doit faire, par exemple l'aider, témoigner avec lui, ou bien yani, il a un problème avec quelqu'un, je vais pour yani, parler comme ça, il a dit c'est mieux pour moi que un mois de retraite pieuse, ihtikaf. Il a dit quiconque marche avec son frère, quand je dis son frère, sa sœur aussi, yani, pour lui régler une chose, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ses pieds demain, le jour du jugement. Le jour du jugement, il va raffermir ses pieds pour qu'il reste raffermi et qu'il ne glisse pas, il tombe. Il va se trouver en enfer ou l'ayadu billah. Et là, donc, Wasmak, celui qui a son pseudo, je ne le connais pas, celui qui a son pseudo, il donne son pseudo aux personnes qui veulent la contacter. Celui qui a son pseudo. Hein? Il donne son pseudo. Alors pourquoi? Il donne son pseudo aux personnes qui veulent la contacter. Sinon, demande-lui. Alors, Mohamed, si tu as son pseudo, demande-lui. Demande-lui si elle accepte qu'on mette son pseudo comme ça, yani, qu'on affiche son pseudo, pour que tout le monde sache qui c'est pour la contacter. Demande-lui si elle veut que ça soit en PV, qu'on laisse ça, inshallah ta'ala, en PV. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, comme on aide les gens, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera aussi. Et ça tombe bien, ça tombe avec le cours de quoi? De la mise en pratique. Ça tombe avec le cours d'aujourd'hui, la mise en pratique de la science. Inch'Allah ta'ala. Tayyib, donc on va répondre, inch'Allah. Donc, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur convertie veut être ma chérie. Il y a une question avant celle-là. Je voulais savoir au jour de la résurrection, si nous serons, quand nous serons ressuscités, nous attendons le jugement dernier, prendrons-nous la taille d'Adam alayhi salam? Prendrons-nous, est-ce qu'on va prendre la taille de Adam alayhi salam? Prendrons-nous la taille de Adam ou garderons-nous notre taille que nous mesurons ici-bas? Je parle bien du jugement dernier, non au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Inch'Allah ta'ala, vous m'entendez, musulmans? Inch'Allah ta'ala, vous m'entendez, musulmans? Non, Inch'Allah ta'ala, la réponse, c'est qu'on va garder notre taille. On va garder notre taille, premièrement, il n'y a pas de dalil qui dit qu'on va changer, et deuxièmement, pour qu'on se reconnaisse. C'est comme on va mourir, on va être ressuscité. Avec la même taille, etc. pour se reconnaître. Qu'on se reconnaisse bien. Naam, et que chacun, yani, avec les traces qu'il a, etc. il va venir, même, vous savez, même le circoncis, il va venir avec, yani, le morceau qu'il a perdu. Il va venir avec. Al-Muhim. C'est après, quand pour rentrer en enfer, naam, et aussi pour rentrer au paradis, que les gens, ceux du paradis, comme vous savez, ils vont passer par... Allah Ta'ala va leur changer leur créature. Car quand ils vont entrer au paradis, c'est pas possible qu'ils rentrent comme ça de petite taille, alors qu'il y a des arbres là-bas qui sont immenses. Et aussi au paradis, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas possible de le voir avec une créature pareille, comme ça, il est faible, même, car il peut même pas voir le soleil. Comment peut-il voir Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, il y a des gens qui vont sortir d'enfer, ils vont passer par comme une fontaine, ils vont se laver là-bas aussi pour pouvoir rentrer au paradis. Et les gens d'enfer vont être beaucoup plus grands que nous si on va au paradis avec la taille d'Adam, beaucoup beaucoup plus grands. Comme les hadiths qu'on a cités plusieurs fois, que le kafir, juste sa dent sera comme une montagne. Et que, yani, quand il s'assoit seulement, il va prendre 500 km. Et que entre son oreille et ses épaules, là je ne sais pas, 700 années de voyage ou quelque chose comme ça. Donc ils seront vraiment, vraiment, vraiment des monstres. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Pour la deuxième question, une sœur reconvertie veut être sûre que son mariage a été bien valide, car elle était mariée par un imam qui n'était pas du ménage salafi. Donc vous devez savoir si son mariage est bien valide. Naam, ton mariage est valide, bi'idhnillahi ta'ala. Ce n'est pas une condition de mariage que l'imam soit salafi. Je dis mieux que cela, il n'y a même pas de imam dans le mariage. Dans le mariage, quelqu'un peut se marier sans qu'il y ait imam. Qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit du tuteur et deux témoins. Moi, quand deux témoins viennent chez moi, et moi je suis le tuteur de ma fille, il n'y a ni imam ni rien. Je dis à celui qui veut la demander, je te l'ai donné. Je t'ai donné ma fille et deux tuteurs et deux témoins m'ont entendu. Classe. J'ai marié ma fille avec cette personne-là. Vous avez compris? Donc, l'imam, maintenant que ce soit salafi ou pas salafi, tout ça rentre pas dans les conditions, inshallah ta'ala. Sois rassuré, bi'idhnillahi ta'ala. Est-il permis d'utiliser la main gauche pendant qu'on mange sans manger avec? Naam, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit que, par exemple, des fois, tu as la main, par exemple, yani qui est, comme c'est dit ici, attendez, il y a de la sauce par exemple dans la main, etc. Comment tu vas prendre un verre comme ça avec ta main? Il a dit par exemple, c'est possible par exemple de mettre le verre par exemple, de le poser par exemple sur la main gauche. Vous comprenez? Je le pose sur la main gauche, mais quand je suis en train de boire en fait, je prends avec la main droite. La gauche juste, yani j'ai mis comme ça comme un poing sous la bouteille là pour que ça m'aide, pour que la bouteille ne tombe pas. Ma main est glissante. Non. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est de ne pas prendre la nourriture et de la mettre dans la bouche avec la main droite. C'est ça l'essentiel. Ne pas prendre la nourriture avec la main gauche et la mettre dans la bouche. Mais il faut la prendre avec la main droite pour la rentrer dans la bouche. Sinon, on peut s'aider avec la main gauche. Reste seulement une chose pour lécher. Lécher, je ne sais pas. Allahu alam, je sais qu'on lèche les trois doigts de la main droite, des fois même quatre, ou là, des fois le quatrième aussi. Si on n'arrive pas à répondre plus. Non, reste pour la main gauche, est-ce qu'on peut la lécher ou pas? Inch'Allah ta'ala, si j'aurai un jour la réponse, je vous répondrai. Moi-même, je suis perplexe en cette chose. Seulement hier ou avant-hier, vous savez, on est dans l'Aïd, etc., la viande, etc. Seulement hier avant-hier, j'ai mangé et j'ai trouvé que j'avais les doigts de la main gauche qui étaient eux aussi glissants parce qu'ils sont rentrés dans la sauce. Donc, quand j'ai commencé à lécher à droite, sans le vouloir, yani sans faire exprès, je suis passé à la main gauche. Ensuite, je me suis dit, mais Allah alim, que on ne lèche que la main droite. Et je me suis arrêté sans être sûr que c'est haram ou pas. Inch'Allah ta'ala, je vous donnerai ça, inch'Allah ta'ala, dès que j'aurai, inch'Allah ta'ala, une réponse, yani sûre, bi'idhnillahi ta'ala. Donne-moi les trois dernières questions. Donne-moi les trois dernières questions, inch'Allah ta'ala. Donc, pour celui qui veut contacter la sœur, inch'Allah ta'ala, muslimata hotmail.com, muslimata hotmail.com. soin comme bi'idhnillahi ta'ala pour celui qui veut yani s'assurer que ce qu'elle dit est vrai, etc. et qu'elle ne ment pas, etc. etc. Non. Les frères peuvent la contacter aussi. Naam, c'est une aide. Que ce soit un frère ou une sœur. Celui qui veut aider, qu'il aide fisabilah. Tfadhal.
Naam, donc les trois dernières questions, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, cher. Ainsi qu'à vous tous présents dans ce salon. Cher, ça fait un moment que j'ai des ballonnements au niveau du ventre. Et cela se déclenche souvent dans la prière et même après. Au début, avant de rentrer dans le din, je n'avais pas ce problème. C'est-à-dire quand je priais, je ne ressentais aucun ballonnement. Mais depuis que je suis rentré dans le din, alhamdoulilah, j'ai beaucoup de ballonnements. Au début, quand cela m'arrivait, je recommençais mes ablutions et ma prière. Mais quand cela est devenu fréquent, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai cherché des fatwas de savants sur ce sujet qui disaient que si c'était fréquent, alors il fallait faire les ablutions avant chaque prière et ne pas tenir compte si quelque chose sortait. Le problème, c'est qu'il y a des périodes où je n'ai pas de ballonnement, genre 3 ou 4 jours, mais cela peut revenir d'une prière à l'autre, donc je ne sais pas si je dois sortir de la prière ou continuer. Et cela ne m'apaise pas du tout, car j'ai peur que ma prière n'est pas acceptée à chaque fois. Qu'est-ce que je dois faire? Car j'essaye de me retenir un maximum pendant ma prière, ce qui m'empêche d'avoir le khushu, car des fois je ressens des choses qui s'échappent sans forcément entendre un bruit ou sentir une odeur. Barakallahu fikum. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma question est la suivante. Je voudrais avoir plus de renseignements sur les jours de Tashriq.
Naam, Afoun, pour avoir pris, pour t'avoir mis le rouge. Muslim, puisque ce sont les trois dernières questions, on va répondre comme ça, une à une, Inch'Allah Ta'ala, comme ça. Surtout que la première est longue pour que je la relise pas, Inch'Allah Ta'ala, encore une fois. Donc je dis, une personne qui a des balles comme ça, Naam, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est comme elle a dit elle aussi. Naam, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle attend le moment où elle sent, yani, que elle est plus ou moins bien. Naam. Ou alors que yani, c'est le moment de la salat. C'est le moment de la salat, elle a dit j'ai un ballonnement, elle attend un peu, elle attend un peu. Quand elle sent que khlas, c'est le moment, sinon yani, c'est presque la moitié du temps qui est parti. Naam. Dans ce cas, elle a peur que quoi? Que le temps sorte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le wudu et elle est excusée. Même si dans la salat, il y a quelque chose qui sort. Alors que elle dit, il y a des choses qui s'échappent sans pour autant entendre un bruit ou bien sentir une odeur. Et moi, je lui dis, c'est le contraire. Même si tu entends un bruit ou bien tu sens une odeur et que tu as attendu, comme j'ai dit, à la dernière minute, tu as fait le wudu, tu es rentré dans la salat, tu es excusé. Comme ça, on dit les savants. Ça rentre, c'est un combat avec le shaitan, c'est un djihad. Tu dois dire que, naam, j'ai entendu un bruit et j'ai senti une odeur, mais wallah que je ne fais pas la salat. Pourquoi? Car la sharia, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui a fait descendre cette sharia, m'a donné quoi? M'a donné une permission. Son prophète aslam m'a donné une permission. Les savants, les héritiers du prophète m'ont donné la permission. Ils m'ont dit, quand une personne est atteinte d'une maladie pareille, elle doit attendre quoi? Elle doit attendre le moment de la salat. Ensuite, elle fait les ablutions et elle rentre dans la salat. Il arrive quoi qu'il arrive, elle ne doit pas refaire la salat. Donc, c'est comme ça qu'elle doit marcher, Inch'Allah Ta'ala, et faire le djihad au shaitan et de lui dire, même si toi tu veux me faire des ouswas, je ne t'entends pas. Moi, je ne refais pas la salat. Shafik, shafik, shafik. Naam. Tayyib, atfadla, Inch'Allah Ta'ala, pour une deuxième question.
Donc, question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma question est la suivante. Je voudrais avoir plus de renseignements sur les jours de Tashriq et si une personne a jeûné ce lundi, a-t-elle commis une faute? Jazakumullah khayran. Vos cours sont une ni'ama et sont très attendus. Qu'Allah vous accorde le firdaous ainsi qu'aux admins et tous les participants. Amin. Tfadal Cheikh.
La question dit qu'elle voulait savoir, elle voulait avoir des renseignements sur le tashri' et que si une personne a jeûné ce lundi, est-ce qu'elle a fait une faute ou pas? Je dis, Inch'Allah Ta'ala, je vous dis cette chose et apprenez-la une fois pour la vie, Inch'Allah Ta'ala. Une fois pour la vie, yani, Inch'Allah Ta'ala. Bon, quand c'est le jour de l'Aïd, l'Aïd, le grand Aïd, l'Aïd Adha, quand c'est le jour de l'Aïd, qu'est-ce qu'on fait? On compte le premier jour, quoi? Vendredi. Ensuite, les trois jours qui viennent après, samedi, dimanche. C'est quoi la dernière question? C'est quoi la dernière question?
Cher, on n'a pas entendu votre réponse. Vous étiez arrivé à apprendre une chose une fois dans la vie. Et vous aviez cité, donc c'est le Eid et le vendredi. Vous avez dit samedi, dimanche, lundi. Et voilà, ça a coupé, on n'a rien entendu. Je sais pas si ça fait longtemps que vous parliez, mais on n'a rien entendu. Fadal Cher.
Là, j'ai parlé beaucoup. Mais malish, qaddar Allah, ma shafa'al, famt. Malish. Astaghfirullah, jeudi. Quand c'est l'Aïd, le grand Aïd, ce qu'on appelle l'Aïd al-Adha, quand c'est l'Aïd al-Adha, c'est interdit de jeûner le jour de l'Aïd lui-même et les trois jours qui le suivent. Comme cette année, par exemple, c'était vendredi l'Aïd. Donc, c'est interdit de jeûner vendredi, ensuite samedi, dimanche, lundi. Car les trois jours qui viennent après l'Aïd s'appellent les jours du Tashriq. Tashriq, c'est-à-dire autrefois, il coupait la viande et la mettait au soleil. C'est le soleil qui la faisait sécher, il n'avait pas de frigo. Les jours où on met le soleil, où on met la viande se sécher au soleil, s'appellent les jours de Tashriq. Ce sont trois jours après l'Aïd. Pendant ces trois jours, c'est interdit de jeûner. Comme a dit le prophète Islam, il a dit que les jours de Tashriq sont des jours de quoi? Il a dit de manger et de plaisanter et de... Il a dit de... Enfin, plaisanter, jouer. Et il a dit et dhikr. Et dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas de jeûner. Donc la personne qui a jeûné le lundi, elle a fait une faute. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et de là, vous comprenez l'importance de la science. Comment, yani, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Et comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le statut ou bien l'avantage du savant sur l'adorateur, c'est comme l'avantage de la lune sur les autres astres. L'avantage de la lune sur les autres astres. La même chose, le savant, par rapport à l'ignorant miskin. L'ignorant miskin, il va jeûner le lundi et il va avoir des péchés. Et le savant, il va manger le lundi et il va avoir des récompenses. Pourquoi? L'autre, il va avoir des péchés. Pourquoi? Parce qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec ignorance. Et Allah ta'ala peut, ou alors s'il veut, il l'excuse. Car il l'a fait avec ignorance. Mais il peut lui donner les péchés pour ne pas avoir demandé la science. Tandis que l'autre qui a mangé le lundi, il a mangé avec science. Car le prophète Aslam a dit, ne mange pas. Il n'a pas mangé parce qu'il veut se rassasier à cause de son ventre. Mais il a mangé à cause du hadith qui lui a dit attention, il ne faut pas jeûner. Donc en délaissant le manger, il va avoir, Inch'Allah Ta'ala, des récompenses. Donc je dis la règle c'est quoi? C'est que on doit compter le jour de l'Aïd et trois jours après. Si par exemple, l'an prochain, par exemple, l'Aïd sera le mercredi. Donc, mercredi, c'est haram de jeûner. Ensuite, on ne jeûne pas jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi après l'Aïd, c'est interdit de jeûner. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi la dernière question?
Je suis à votre PV, Inch'Allah, pour que je vous l'envoie. Donc, dernière question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si tous ces actes sont des bid'a ou si certains sont selon le Coran et la Sunna. Le fait de réciter le Coran et les du'as en groupe, le fait de s'essuyer le visage après avoir fait des doigts. Et si on doit lever les mains, comment doit-on les lever pour faire les doigts? Se serrer la main après avoir accompli la après afan. Se serrer la main après avoir accompli la salat. J'ai beaucoup de waswas concernant tout cela, car subhanallah, de nos jours, on voit énormément de choses et je ne sais pas quels actes font partie du Coran et de la Sunna. Wa barakallahu fikum. Tfadda cheikh.
Un musulman, est-ce que la personne a dit lire le Coran en groupe ou bien elle a dit apprendre le Coran en groupe? Est-ce qu'elle a dit lire le Coran en groupe ou bien apprendre? Tfadda. Lire. Taïb. Lire le Coran en groupe, ça rentre dans la bid'a. Qu'est-ce que ça veut dire en groupe? Ça veut dire que yani, on va tous lire comme ça, yani, disons, la même voix. On part tous ensemble, on dit Alhamdulillah et tous en groupe, comme ça. Ça rentre dans la bid'a. Par contre, si quelqu'un lit, nous on l'écoute. Ensuite, quand il termine, c'est le deuxième qui lit, l'autre écoute. Ensuite, le troisième qui lit, l'autre écoute. Dans ce cas, c'est permis, bi'idhnillahi ta'ala. C'est permis. Ce qui est interdit, c'est de lire tous à la fois en groupe. C'est ce qu'on veut dire par en groupe. Tayyib. Faire les doigts en groupe, ça rentre dans la bida. Faire les doigts en groupe, ça rentre dans la bida. C'est-à-dire, une seule personne, par exemple, fait des doigts. Et les autres disent amin. Sans que la personne qui fasse les doigts lève la main et sans que les autres lèvent leurs mains. Mais, yani, si moi je fais des doigts, je dis des choses, vous m'entendez, vous dites amin, c'est tout. Vous dites amin, sans lever les mains. Si moi maintenant je vais lever mes mains pour faire des doigts, vous, ce n'est pas obligé de lever les mains pour dire amin. Vous dites amin sans lever les mains. Moi je lève les mains. C'est la sunna de lever les mains pour faire la doua. Mais les autres, pour dire amin, c'est pas de la sunna de lever les mains. Ils disent amin sans lever les mains. Ensuite, comment qu'on lève les mains pour faire les doigts, ça dépend de quel genre de doigts. Si ce sont des doigts normales, comme de demander à Allah Ta'ala une chose, par exemple, de me guérir d'une maladie ou ceci ou cela, comment qu'on lève la main? On lève les deux mains. Si je puis dire, coller l'une à l'autre. Les mains où il y a les doigts. Coller l'une à l'autre. C'est-à-dire, je colle le petit doigt de ma main droite avec le petit doigt de ma main gauche et je les lève comme ça. Je lève mes deux mains, je les rapproche de mon visage. Pas comme ça en haut, mais un peu en bas. Un peu, c'est comme si je voyais un peu en bas et mes deux mains rapprochées de ma bouche. À me rapprocher de mon visage, disons, vers le bas. Mais si ces doigts, par exemple, l'istisra de la pluie, etc., on ouvre les bras jusqu'à ce que on voit ce qu'il y a sous les aisselles, comme faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a dit ça aussi. Elle a dit pour... Rappelle-moi, qu'est-ce qu'il y a encore, musulman? Elle a parlé aussi de... du fait de se serrer la main, exactement, serrer la main après la salat. Serrer la main après la salat, ça rentre dans la bida, surtout si c'est la prière obligatoire. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, si c'est après la prière surérogatoire, ça fait rien, mais pas à cause de la prière. À cause de que j'ai pas rencontré une personne. J'ai pas rencontré la personne. Quand j'ai terminé la salat, un temps ça m'a dit salam, comment ça va? Ça, c'est pas la bida. La bida, c'est de tendre la main sans raison. C'est-à-dire, même si j'étais avec la personne, et on vient de rentrer à la mosquée pour faire la prière, quand on termine, on se serre la main. C'est ça la bida. Il faut bien faire la différence entre je tends ma main à quelqu'un parce que je ne l'ai pas rencontré, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je lui dis comment ça va, etc. Et entre tendre ma main sans raison, presque croire que ça rentre dans la salat, comme font certains gens, surtout les vieux. Dès qu'ils terminent la prière, ils serrent la main. Ils disent Allah yakbal, exactement. Taqabbal Allah. Ça, c'est bida. Mais si ça fait. T'as pas rencontré une personne et tu la vois à ta droite ou à ta gauche, tu lui serres la main, tu lui serres la main, comment ça va, etc. C'est pas bida. Surtout, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, surtout, si c'est après Salat Nafila. Si c'est après Salat Nafila, bi'idna ta'ala. Dis-moi, reste-t-il un détail dans la dernière question? Reste-t-il un détail dans la dernière question? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer mercredi. Non, c'est pas mercredi aujourd'hui, c'est mercredi. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Bi'idhnillah Subhanahu Wa Ta'ala. D'ici là, puisse Allah Subhanahu Wa Ta'ala fermer mon cœur et nous aider à apprendre et nous aider à pratiquer ce qu'on a appris. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين الله vous récompense vous aussi pour avoir assisté سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته